Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, daté du 10 octobre 1990, rediffusé ce dimanche 11 avril 2010, dans la nuit de 2h à 5h. Attention, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonsoir à tous et à toutes. Si.
Oh,
bonne soirée.
Oh, extra.
Bonsoir à vous tous et à toutes. Si.
À vous tous.
À vous tous et à toutes. Si.
Et ne vous battez pas.
Oui, bien non. Sûr. Alors, il faut qu'on vous explique quand même, parce que c'est absolument fascinant ce qui se passe au Rwanda, que les Tutsis qui étaient sortis ont voulu rentrer, et les Hutus n'ont pas voulu qu'ils rentrent. Mm. Les Hutus sont petits, les Tutsis sont grands. Les Hutus ont mis un système au point pour mettre les Hutus sont des socialistes, quoi, finalement. Ouais, ils ont dit, comme les Tutsis sont grands, les chefs, la Hutu, qui s'appelle Procustla, il a dit, on va leur couper les jambes. Alors, ils ont coupé les jambes des Tutsis, qui maintenant sont petits. Mais les Tutsis n'ont pas aimé ça beaucoup. Alors, donc, ils étaient partis, ils étaient réfugiés en Ouganda.
Quelques-uns étaient dans le pays, quand même.
Quelques-uns étaient restés dans le pays. Maintenant, ils essayent de revenir.
Ils sont tout petits, ce
voilà. Ils sont tout petits devant une chose. Et maintenant, ils essayent de revenir. Et alors, ils sont chez eux. Ils étaient exilés en Ouganda. Maintenant, ils veulent rentrer au Rwanda, qui est leur pays. Donc, ils veulent rentrer chez eux. Mais les socialistes français là ne sont pas d'accord là. Alors ils ont envoyé la Légion étrangère pour les empêcher de rentrer chez eux.
En chantant tiens voilà du boudin. Alors du coup les Belges sont arrivés aussi.
Alors les Belges pour lesquels il y en a pas, enfin pour il y en a plus.
Sont venus
voir si par hasard. Non mais c'est une histoire de fou. C'est-à-dire que si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On envoie l'armée là-bas en Golfe Persique pour le coitus interruptus. C'est un député qui a dit ça. C'est joli, non?
C'est pas mal.
Je crois que c'est un député. Donc on les envoie là-bas pour empêcher les Irakiens de rentrer dans un pays, enfin un prétendu pays, qui ne serait pas le leur, et qui s'appelle donc le Koweït. On envoie la Légion au Rwanda pour empêcher les Tutsis de rentrer dans un pays qui est le leur.
Depuis des temps immémoriaux.
Et on envoie les CRS à Vaux-en-Velin, pour ne rien empêcher du tout, d'ailleurs,
de la part de
en face de gens qui ne sont pas dans leur pays, et qui même, je le dis très tranquillement, ceux qui ont la carte d'identité française, oui, bon, parce qu'il y en a, on a entendu, il dit, moi, ils disent que j'ai une sale gueule, alors, ça se voyait pas, parce que c'était à la radio, mais c'est vraisemblable, et pourtant, j'ai montré la carte d'identité française, et ils m'ont quand même tapé dessus parce que je suis algérien. Mais s'il a une carte d'identité française, il n'est pas algérien. S'il est algérien, pourquoi il a une carte d'identité française?
C'est assez unique.
Il y a là un problème qu'il faudrait résoudre rapidement. Moi, je propose qu'on ramasse toutes les cartes d'identité et on les redistribue en fonction de critères.
Le critère service précis, du pays. Le service du pays, voilà. C'est tout.
C'est ça. Et alors, dans le même temps où les CRS n'arrivaient pas à renvoyer dans leur foyer quelques dizaines ou quelques centaines de jeunes singes hurleurs. En revanche, ils y allaient ardemment du bidule sur une poignée de vieux d'anciens combattants harkis qui, à Agen, réclamaient tout simplement leur dû. C'est-à-dire, c'est des gens, on leur a dit...
Et d'être français.
Voilà. Bon. Alors, je crois qu'il va falloir quand même m'expliquer qui dirige ce pays et comment, en fonction de quels critères, parce que si on ne sait pas, on ne peut pas agir conformément à la loi. C'est très difficile si la loi change tout le temps. On va avoir un exemple avec Pierre Sidos qui est venu nous voir ce soir, qui va nous raconter comment ça marche la loi sur la presse. Il faut nous expliquer. Moi, je suis pas contre la loi. Je suis tout prêt à la respecter, mais il faut qu'on me dise.
Hein, laquelle?
Laquelle? C'est-à-dire, est-ce que on a le droit d'envahir un pays avec l'aide de la Légion étrangère? Ou plutôt, est-ce qu'on a le droit d'empêcher des gens de rentrer chez eux avec l'aide de la Légion étrangère? Ou est-ce qu'on a le droit d'empêcher les gens d'entrer chez les autres avec l'aide de l'armée régulière? On a le droit d'allumer les voitures et de brûler des boutiques sous la protection des CRS.
Un quartier entier, même.
Un quartier entier. Est-ce qu'on a le droit de se faire taper dessus quand on est arabe à condition d'avoir plus de 50 ans et d'avoir combattu dans les rangs de l'armée française, enfin, il faut m'expliquer. Hein? C'est tout. Après, on obéira.
Ah, et sur le mystère du pouvoir, il y a un petit passage de Guy Debord sur
Nicolas Bonnal.
Dans les commentaires sur la Société du spectacle. Le pouvoir est devenu si mystérieux qu'après l'affaire de vente illégale d'armes à l'Iran par la présidence des États-Unis, on a pu se demander qui commandait vraiment aux États-Unis la plus forte puissance du monde dit démocratique. Et ajoute Debord, et donc qui diable peut commander le monde démocratique.
Et oui, qui diable peut le commander. C'est une question que je me pose
de moins en moins.
De moins en moins. Ah, vous avez reconnu la voix de
Satan,
Nicolas
Bonnal. Satan à devenir Satan, de plus en plus clair.
Satan. vous venez de reconnaître l'organe, pardon, d'Alain Sanders. Et je me tourne maintenant vers Pierre Sidos, qui est venu nous raconter une histoire qui serait comique si elle n'était pas tragique.
Voilà, c'est tout simplement la justice à leur Arpaillange et la liberté à leur Jox. J'ai une activité politique depuis tout le temps, et depuis 25 ans que je dirige notamment le journal Le Soleil, celui-ci n'a fait l'objet d'aucune poursuite, d'aucun parquet, d'aucune plainte, d'aucune association spécialisée, et d'aucune plainte également d'un particulier. Or, dans la deuxième quinzaine de septembre, c'est un tir groupé. Nous avons redemandé l'inscription à la commission paritaire de presse, et en un mot commençant, ça permet aux journaux de disposer de réductions postales, et je vais vous prendre le cas, c'est 0,40 € pour un exemplaire du Soleil avec le numéro de commission paritaire de presse, c'est entre 2,80 € et 5,70 € sans le numéro commission paritaire de presse. Donc nous avons demandé notre réinscription en remplissant toutes les conditions de forme et de fond. Cette commission, présidée par un conseiller d'État, s'est réunie déjà trois fois à ce sujet, alors que c'est de droit. C'est de droit quand on remplit toutes les conditions de forme et de fond. Et ils m'ont envoyé tout récemment une lettre tout à fait extraordinaire, me disant qu'à nouveau, la commission se réunirait le 11 octobre, parce qu'elle a eu connaissance que plusieurs revues avaient été interdites de vente aux mineurs d'exposition et de toute publicité, et que compte tenu de ce contexte, la commission a décidé de s'accorder un délai de réflexion pour apprécier si ces données de fait devaient être prises en compte dans la décision qu'elle rendra prochainement. Et il était fait référence au ministère de l'Intérieur. Or, le journal officiel qui définit les attributions et la composition de la commission paritaire de presse implique 7 ministères à l'exclusion du ministère de l'Intérieur.
Ça, écoutez, je voudrais qu'on redise ça parce que c'est vraiment colossal ce que vient de nous dire Pierre Sidos. C'est-à-dire que, je résume, les journaux bénéficient de certaines dispositions fiscales et tarifaires, ce qui concerne notamment le prix du papier, la poste, etc., qui sont liées à l'attribution d'un numéro distribué par une commission qui s'appelle la commission paritaire de presse, qui se réunit régulièrement. Pour obtenir cette autorisation, il faut correspondre à certains critères de qualité,
de périodicité,
et de conformité à la loi.
C'est cela.
Bien. Le Soleil, qui est un journal qui existe depuis fort longtemps.
1966.
66, donc de 24 ans, qui n'a jamais été condamné ni même poursuivi, demande le renouvellement de sa commission paritaire. On le lui refuse au motif que certains journaux, dont Le Soleil ne fait pas partie, seraient interdits à l'affichage. Et on s'abrite pour refuser le renouvellement de ce numéro de commission paritaire derrière le ministère de l'Intérieur qui ne fait pas partie de la commission paritaire.
Tout cela est exact, ça se passe.
C'est-à-dire qu'on est dans le déni de droit, le déni de justice absolu. Ça se passe en France en 1990 avec au pouvoir ces salauds de socialistes qui passent leur temps à nous pomper l'air en nous expliquant qu'ils sont l'incarnation de la morale politique. Et en volant dans les caisses au passage, naturellement. Alors moi je vais dire une chose, si les socialistes veulent continuer à s'engraisser, à devenir milliardaires, des gros milliardaires pourris comme ils le sont tous, tous les gens qui ont été ministres, sont devenus, ou peu s'en faut, des gros milliardaires, qu'ils le fassent, mais qu'au moins ils nous foutent la paix dans la gestion de nos affaires, qu'ils ne prétendent pas nous dicter leur morale pourrie de gros cochons engraissés. Voilà, c'est ça qu'il faudrait qu'ils sachent une fois pour toutes. Parce qu'il ne faut pas qu'ils rêvent, les socialistes. Ça ne va pas durer indéfiniment. Je voudrais citer mon excellent camarade Roger Olindre, qui parle de Vaux-en-Velin, et qui dit « Tous ceux qui ont servi la France et qui ont tant qui ont vu tant des leurs dans leur vie, parfois simplement pour l'honneur, n'accepteront pas indéfiniment que certaines villes de France soient livrées sans défense aux hordes étrangères. C'est exactement la même chose pour la vie politique de ce pays. Il ne faut pas croire qu'on va accepter indéfiniment de rester les bras croisés ou les mains dans le dos, pendant que la canaille socialiste, la crapule franc-maçonne met ce pays en coupe réglée et prétend nous priver des libertés élémentaires avec la complicité de tous ces pourris de petits fonctionnaires merdeux, hein, je pense aux gens de la commission paritaire, qui se permettent de bafouer ouvertement les lois françaises. Il va falloir que ça s'arrête un jour. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un dans ce pays pour obliger les fonctionnaires à cesser ces forfaitures permanentes et à respecter les lois, on va nous s'en occuper. C'est comme ça que ça va se terminer. Il faut qu'ils le sachent.
Alors ça se passait le 13 septembre, et le 14 septembre, pour la première fois depuis la guerre d'Algérie, j'étais à nouveau inculpé pour 7 lignes dans un article de 200 lignes et qui traitait de problèmes historiques. Et dans le même temps où je recevais la notification de mon inculpation, il y avait la date de comparution, c'est-à-dire le 18 octobre, la justice est rapide en France, j'étais inculpé le 18 septembre, et je dois comparaître le 18 octobre, sans être passé devant un juge d'instruction, uniquement après avoir été entendu sur commission rogatoire...
Par un inspecteur divisionnaire.
Par un inspecteur de police. Ensuite de quoi, le 25 septembre... Tout cela, ça se situe en même temps, c'est le tir groupé. Je reçois de la part du ministère de l'Intérieur, Direction des libertés publiques. Ça s'appelle la Direction des libertés publiques, j'ai là le document. Une décision de Monsieur Jox, indiquant qu'il interdirait effectivement le soleil à la vente publique aux mineurs et puis à la publicité. Alors, dans une quinzaine de jours,
n'importe quel journal pornographique de la pire ordure pornographique.
C'est la loi de 1949 visant la pornographie.
On peut rappeler qu'ils avaient fait le coup très longtemps au journal L'Aspect de la France, qui était interdit d'affichage, qui était assimilé à une revue pornographique.
Alors la chose se complique parce que nous ne nous laissons pas faire et le ministère de l'Intérieur a accordé une quinzaine de jours pour que nous nous justifions, alors qu'il n'y a aucun motif réel dans la décision de cette inculpation, de cette décision d'interrompre la vente publique du soleil. Alors, nous nous défendons. Il y a des journaux qui ont été sanctionnés de la sorte, qui n'ont pas tellement réagi, et puisque le terme de concertation est employé par lettre recommandée, nous avons demandé, par rapport à la définition de la concertation sur le plan administratif, à être reçu. Alors, ça commence déjà un peu à se tempérer uniquement parce qu'on s'est défendu. Et puis dans la même semaine, le 28 septembre, il y a eu un attentat par un engin incendiaire contre les locaux du Soleil, à 11h30 du soir, le 28 septembre.
Alors, on va vérifier si l'inspecteur Dufour était en prison à ce moment-là.
Et dans le même temps, c'est-à-dire à la même heure,
un rayon à cause du...
à Fontainebleau, 10 jeunes gens, dont 2 jeunes filles, enfin 8 jeunes gens et 2 jeunes filles, étaient interpellés parce qu'ils collaient des affiches « Halte à l'invasion ». Ils ont été conduits au commissariat central de Fontainebleau vers 24 heures, menottes au poignet. Je n'avais jamais vu et entendu parler de cela auparavant. Les jeunes hommes ont été mis en cage jusqu'au lendemain midi, et les 2 jeunes filles que l'on ne voulait pas mettre avec les jeunes gens ont été enchaînées à un radiateur où elles ont passé comme ça toute la nuit avec la chaîne...
C'était par rue Lauriston, ça.
Uniquement pour un collage d'affiches. C'est-à-dire que là encore, le collage d'affiches étant libre en France, en respectant certaines dispositions, on se trouve devant des actes de répression
et de censure. Vous voulez que je vous donne un exemple d'acte de censure, Pierre Sidos ?
Oui, je vous en prie.
Voilà, c'est un auditeur qui téléphone. Le CSA ne donnera sûrement pas son autorisation d'émettre en province si Serge continue sur ce ton. Eh bien, je vais vous dire, monsieur, moi je vais continuer sur ce ton. Parce que d'abord, le CSA, il est là pour appliquer une loi qui n'a rien à voir avec le contenu des émissions. Quand les émissions ne sont pas de caractère infamant ou de caractère attentatoire aux bonnes mœurs, le CSA n'a pas à mettre son nez dans le contenu des émissions. En tout cas, moi, je n'autorise personne, pas plus le CSA que le président de la République, à mettre son nez dans mon émission. C'est moi qui décide de ce qu'il y a dans cette émission.
C'est comme ça, d'ailleurs,
point à la ligne. Alors, je vais dire, chaque fois que vous faites un pas en arrière avec ces gens-là, eux font 2 pas en avant. Et c'est comme ça qu'on perd, non seulement la province, mais bien sûr Paris. Tandis que si on montre qu'on est déterminé à ne pas se laisser marcher sur les pieds par n'importe quel petit fonctionnaire grisâtre, eh bien,
Ils ont peur et ils reculent. Les socialistes sont des péteux, des froussards, on le sait depuis toujours, sont des lâches, ils ont une mentalité de vilains collabos, ils ont toujours été du côté du manche, et par conséquent, quand on aboie, ils reculent. Alors quand on mord, ils partent en courant. Donc il n'est pas du tout question que je cesse d'éructer. Je trouve qu'après tout, l'éructation est une très bonne défense devant l'ordure.
Alors ce fait est à relever, c'est qu'en 15 jours, il y a eu 5 actions attentatoires aux libertés publiques les plus élémentaires, sous la rubrique « Il y a une direction des libertés publiques au ministère de l'Intérieur ». Alors, il faut mettre les gens en cause, effectivement. Les deux qui faisaient la paire, c'était Jox et Arpaillange. Je ne cite pas leur prénom parce que c'est le mien et qu'ils le déshonorent. L'un et l'autre s'appelant Pierre. Et Arpaillange déclarait, j'ai la déclaration, qu'il travaillait en étroite liaison avec le ministère de l'Intérieur.
Et la claque de la part du garde des Sceaux,
oui,
dans un pays où la séparation des pouvoirs
avec le ministère de l'Intérieur, il vient de prendre une claque supplémentaire après son départ avec le Parlement européen qui a refusé de lever l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, et même les gens les plus hostiles au président du Front National, là, sont vraiment dégoûtés des façons de faire de M. Arpaillange. Alors les deux faisant la paire, il en reste un, c'est le Jox de l'affaire Delaveau. C'est le Jox de l'interdiction de la fête de Jeanne d'Arc, c'est le Jox de l'affaire de Carpentras, c'est le Jox qui concurremment déclarait que cette année on verrait que les incendies de forêt, ben on a vu, c'est le même de l'affaire Doucet, c'est le même de Vaux-en-Velin. Alors, sur le même ton que Serge Beketch, je vais lui rappeler le sort qui fut réservé à ses deux prédécesseurs socialistes au ministère de l'Intérieur, dont il voudrait sans doute imiter, c'est Marx Dormois. Et c'est Jules Moche. Jules Moche vit encore et il est mort. Quant à Marx Dormois, il n'a pas survécu au mois de juillet 1940. Nous sommes soumis à une nouvelle forme de totalitarisme, à une doctrine d'État qui s'appelle l'antiracisme et à une loi du sacrilège qui empêche d'aborder certains problèmes. Alors la révolution de 1830, nous l'avons tous appris à l'école, celle de 1830, s'est faite à cause d'une loi sur la presse. Or je vous ai signalé à l'instant les entraves qui sont faites à la liberté de la presse. Le milliard des immigrés, maintenant, ce sont les milliards des immigrés. Et la loi du sacrilège, eh bien, la loi du sacrilège, c'est la loi que les socialistes ont créée, mais une loi non écrite, pratiquement, qui interdit aux Français de s'exprimer librement chez eux.
Merci Pierre Sidos. Alors je voudrais répondre à une auditrice maintenant qui nous dit, il me semble que vous n'êtes guère courtois à Radio Courtoisie ce soir. Vous savez madame, il y a des moments où on peut être courtois, et des moments où la courtoisie me paraît quand même assez peu de mise. Quand j'entends ce que vient de nous expliquer Pierre Sidos ce soir, j'ai pas du tout envie d'être courtois. Nous avons en face de nous des ennemis implacables, qui sont des ordures totales. Ce sont des gens qui bafouent la loi, qui bafouent la règle, qui bafouent la morale, qui bafouent tous les principes fondamentaux de l'honnêteté et de la vie en société, et ces gens-là voudraient qu'on soit courtois en face d'eux, mais c'est une plaisanterie. Je vous assure que j'ai pas la moindre intention d'être courtois avec des gens de l'envergure de Jox. Je le traite Jox comme il doit être traité, et comme d'ailleurs il nous traite. Je considère que nous sommes en guerre contre les gens comme ça. Et la guerre se fait pas avec courtoisie. Elle se fait avec violence, avec méchanceté, pour blesser, pour faire mal, pour frapper, pour abaisser, pour salir s'il le faut. Et ces gens-là n'ont pas du tout besoin, d'ailleurs, qu'on se fatigue beaucoup pour les salir. Ils font ça très bien tout seuls. Voilà ce que j'avais à répondre. Pour le reste, pas de félicitations au commissaire de police de Fontainebleau, nous dit une auditrice. Ça va sans dire. Je voudrais quand même pas être dans la culotte de ce garçon-là, vous savez. Quand on est flic, commissaire de police, qu'on balise, qu'on baisse son froc devant la canaille, hein, je ne préciserai pas quel genre de canaille, puisque de toute façon la loi Guesso l'interdit.
Et qu'on attache les gamines à des radiateurs. Oui, d'autant plus que la règle en France, c'est que même des voleuses ou des criminels féminins, on ne leur met jamais les menottes.
Jamais.
C'est une règle.
Ouais.
Et donc que des militantes politiques qui collent légalement des affiches se retrouvent passer 12 heures en garde à vue avec une menotte, comme on peut le voir dans certains films, entre malfrats, entre malfrats, attachés à un radiateur. S'est passé à Fontainebleau.
Sont les odieux de Fontainebleau.
Ouais. C'est un lecteur du Marquis de Sade.
Merci Pierre Sidos, en tout cas. J'espère que quand même il se trouvera en France une institution, une juridiction, un homme, un magistrat qui aura le courage, le simple civisme de se dresser contre ce qui est en train de se concocter contre vous. Et j'espère surtout que les nationalistes dans la ligne s'occuperont de... un peu plus de vous défendre et de vous aider dans cette affaire que de faire des ronds de jambes à...
C'est dans la ligne
Courtois,
des répressions contre le Front National, notamment l'interdiction à Toulouse d'un meeting pour le 14.
Qui a lieu à Castres en remplacement.
Ça, c'est Monsieur Baudis qui a interdit ce meeting, parce que figurez-vous qu'il y avait une panne d'électricité. C'est une plaisanterie.
Ce que vous avez dit de la guerre, elle se fait avec loyauté, avec des gens loyaux. Ce n'est pas un combat entre chevaliers, ce sont des canailles, c'est de la crapule.
Voilà, ben on est une fois de plus d'accord, ce n'est pas pour me surprendre. Merci Pierre Sédos. Mon cher Alain, tu as quelque chose à nous dire ?
Non. Sinon que je confirme effectivement que le meeting de Toulouse interdit par Baudis, il faut le savoir, qui a trouvé comme raison dérisoire à notre époque dans un pays où il y a quand même la SNECMA, dans une ville où il y a quand même la plus haute technologie française, une panne d'électricité décelée providentiellement il y a 10 jours, et bien 10 jours après, ils n'ont pas les moyens de réparer cette panne de courant, mais le meeting aura lieu, je le dis pour les amis de Paris, mais qu'ils le diront à leurs amis de province, il a lieu le 14 octobre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire toute une journée de fête tricolore à Castres, dans la salle Gérard Philippe, à laquelle Bernard Anthony adjoindra un grand chapiteau. C'est le moment de relever ce défi, c'est le moment d'y aller encore plus qu'on aurait voulu peut-être à Toulouse. Et le même Baudis, d'ailleurs, s'est déconsidéré dans le monde en disant que il avait interdit en quelque sorte ce meeting parce que Jean-Marie Le Pen aurait justifié la prise d'otage en Irak. C'est-à-dire qu'à sa saloperie, il ajoute l'ignominie. Et là encore, pardon de ne pas être courtois, mais les gens qui sont courtois commencent à nous courir sur l'haricot, comme on disait jadis.
Il y a d'ailleurs une réflexion qu'on peut faire à propos de l'affaire de Vaux-en-Velin. C'est qu'on n'a pas cessé d'entendre sur toutes les radios, on a entendu des sous-ministres glapir ça, que les jeunes manifestaient, les jeunes, c'est des jeunes qui ont fait ça, des jeunes quoi, on ne sait pas, mais c'est des jeunes, manifestaient leur détresse devant l'exclusion qui les frappe. Je veux dire qu'il n'y a pas de gens qui soient plus exclus que nous, militants nationalistes, en France. Hein. On est vraiment considérés comme des paillassons sur lesquels on peut s'essuyer les pieds comme on veut, on peut dire absolument ce qu'on veut des nationalistes. Vous, si vous êtes français, blanc, catholique, vous êtes exactement, passez-moi l'expression, de la merde. Donc on a le droit de faire de vous ce qu'on veut. Et en tant qu'exclus, nous aussi, on pourrait réagir. Imaginez qu'à la suite d'une réunion, par exemple d'un BBR quelconque, on décide de manifester notre détresse face à l'exclusion qui nous frappe en foutant le feu à un supermarché. Ah ben mes enfants, je ne sais pas si les CRS recevraient l'ordre, comme ça a été le cas à Vaux-en-Velin, de ménager un périmètre de décompression.
Ils feraient comme ils l'ont fait à Agen, c'est-à-dire qu'ils matraqueraient des soldats français musulmans de 80 ans, décorés, qui ont été tabassés, jetés à terre et leurs décorations arrachées. Voilà le pouvoir socialiste aussi, il faut le dire.
Mais ça, c'est pas le pouvoir socialiste, ça, c'est les policiers qui ont fait ça.
Oui, mais
pouvoir du pouvoir.
Mais personne. Il y a des policiers qui. Oui. L'honneur des policiers, c'est aussi parfois de ne pas obéir aux ordres ignobles.
C'est ce que je pense. Voilà, ils ont obéi à ces ordres ignobles, donc ils sont eux coupables. Les socialistes qui ont donné les ordres sont des salauds, mais ça, on le sait depuis toujours. Mais il faut arrêter. Parce que la droite, on a tendance à dire la police avec nous, à soutenir systématiquement la police. Il faut quand même dire une chose. Il y a une part importante de la police qui est constitué de francs salauds. C'est une découverte que j'ai faite il y a fort longtemps, le jour où j'ai vu, moi, les policiers matraquer Jean-François Devet, qui était au dernier stade du cancer, devant Minute, et qui brandissait un drapeau français. Je rappelle que Devet a été décoré de la médaille militaire pour fait de résistance à 16 ans, c'est quand même pas très courant. J'ai vu des CRS, sur ordre, lui casser la figure à coup de matraque, alors qu'il était visiblement, il était mourant, il y avait qu'à le regarder pour le voir. Donc, on ne doit pas systématiquement considérer que le fait d'obéir à un ordre exonère un fonctionnaire de toute responsabilité. C'est bien clair que le flic de Fontainebleau qui accroche deux gamines à un radiateur pendant une nuit entière fait ça de son initiative personnelle, même s'il a reçu l'ordre de son ministre de se montrer particulièrement répressif à l'égard des nationalistes, disons qu'il en rajoute. Il en rajoute exactement dans les conditions dans lesquelles on reproche aujourd'hui à Vichy d'en avoir rajouté sur les lois juives par rapport à ce que demandaient les Allemands. Eh bien, je dis qu'on est exactement dans la même situation. Les flics peuvent faire leur travail proprement. Quand ils font des choses comme ça, ils en rajoutent. Et ils en rajoutent encore dans l'autre sens, en se déshonorant à Vaux-en-Velin, parce que les commandants de compagnie qui ont laissé leurs hommes se faire écrabouiller sous les pierres, sous les pavés, se faire blesser, se faire injurier pendant 4 nuits de suite, sont déshonorés. Même s'ils avaient reçu des ordres pour ça, ils n'avaient pas à exécuter ces ordres qui sont contraires à la loi, au bon sens et à l'ordre. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Même si c'est pas courtois, c'est la vérité. Moi, je préférerais toujours la vérité à la courtoisie.
J'ai voilà. Une petite note là, Serge. Le 17 octobre, devant la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris, viendra en appel l'affaire à griffe contre Lanzmann et Fluide Glacial. Je rappelle en deux mots ces affaires. La griffe, dans ces deux affaires, avait été déclarée irrecevable. Parce que quand on attaque des chrétiens, et plus spécifiquement encore des catholiques, c'est permis. Et
par la loi
de 72, par le juge Grelier, devant
sûr. Bon.
Mais l'affaire Lanzmann, rappelons ce que c'était. Lanzmann avait écrit dans VSD, ce triduum de l'ordure aussi, que les... Carmélite d'Auschwitz, si elle voulait vraiment montrer qu'elles étaient concernées par Auschwitz, il fallait qu'elles s'immolent par le feu, qu'elles se suicident en quelque sorte. Des sœurs catholiques se suicidant par le feu. En plus, voilà Lanzmann, cette affaire, et l'autre, c'était celle de Fluide Glacial, où ce journal satirique de bande dessinée avait aussi encore attaqué des bonnes sœurs, dont l'une d'entre elles avait comme poupée gonflable le Christ, qui lui servait de poupée gonflable. Alors, ça se passe en appel le 17 octobre devant la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris. Si des gens peuvent y aller, ça fera du bien aux gens de la griffe et à ses avocats.
Alors, d'autres appels, bravo pour votre émission. Vous êtes les seuls à dire ce que beaucoup pensent, où est passée la célèbre gauloiserie des Français. Et je crois que c'est effectivement, il y a pas mal d'appels, de gens qui disent, vous employez vous employez un langage un petit peu vigoureux, un petit peu vert, mais après tout, c'est comme ça qu'il faut parler. Il y en a marre de cette espèce de consensus ramollo, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sauf naturellement nous autres. Nous, on est les chiens glauques, on est les scolopendres putrides, on peut faire absolument ce qu'on veut, mais les autres, alors ils sont forcément très bien, forcément beaucoup de talent, ils sont géniaux, tout va très bien, tout le monde est content, et ben moi non, je marche pas. Il y a un auditeur qui nous fait une remarque tout à fait juste, il dit: monsieur Jox avait fait 400 km pour se rendre à Carpentras, pourquoi n'est-il pas venu sur les lieux à Vaux-en-Velin? Ben, tout simplement parce que je pense qu'il avait les chocottes, comme on dit les gamins.
Il
avait peur, ils sont dangereux les gars, hein, c'est plus dangereux que les skinheads les gars
les
morts de Vaux-en-Velin.
C'est plus dangereux que les morts.
Le présentateur de France Inter a annoncé que le député européen a pleuré au Parlement européen en évoquant les événements de Vaux-en-Velin. Oui,
il a pleuré comme à Vaux-en-Velin.
C'est la députée, comment dirais-je, Beurre, comment elle s'appelle?
Ah, écolo.
Oui, écolo Beurre.
Titaouin.
Elle a pleuré. Ah voilà, elle a pleuré. Donc cette dame n'aime pas qu'on brûle les supermarchés, ça la fait pleurer. Voilà.
C'est très écolo.
Voilà, moi j'ai fait les deux petites annonces. 15 qui disent bravo à Serge, très bien. Il y a une seule petite réserve là. Oh, oui, mais ça va vous faire du tort.
La forme n'est pas bonne. Oui, c'est ça le problème. Vous comprenez, quand on est en colère, on a tendance à parler violemment. Et comme on a complètement perdu l'habitude de ce langage. C'est extraordinaire, ce pays est en train de s'enfoncer dans un océan de consensus mou. Mais dans tous les domaines, je vais prendre un exemple complètement idiot. Vous servez un camembert à table, un vrai camembert comme on en mangeait il y a 30 ans. Les gens sont épouvantés.
Ah oui, que...
Quand vous ouvrez la boîte de camembert, vous apportez le camembert, ils sont épouvantés parce que ça sent fort. Ben oui, c'est ça, ça sent fort le camembert.
Les pieds de Dieu.
Les pieds de Dieu, exactement, dit Alphonse Boudard qui vient de nous rejoindre. Ça sent fort, ouais. Et ben le langage doit aussi sentir fort. Après tout, je suis pas obligé de parler comme Monsieur Bernard-Henri Lévy, ça m'intéresse pas tellement. D'ailleurs,
il est violent.
Monsieur Bernard-Henri Lévy, quand il a quelque chose à dire, il l'envoie pas par la poste. Il se gêne pas, lui, pour dire qu'on
faut faire une guerre à Le Pen.
Il faut faire la guerre
par tous les moyens, y compris la ruse, hein, etc.
Mais moi, si je dis ça, qu'il faut faire la guerre aux socialistes par tous les moyens, alors on me dit, vous n'êtes pas courtois. Mais Monsieur Bernard-Henri Lévy, il a le droit de dire, comme 250 autres signataires d'un tract anti-Le Pen, qu'il faut faire la guerre à Le Pen par tous les moyens, y compris dans la rue, y compris par la ruse. Bon, alors ça veut dire qu'effectivement, c'est tout simplement un appel au meurtre, quoi.
Oui, mais lui, il se réclame pas de la courtoisie, il se réclame du judaïsme. Donc il a tous les droits de n'être pas courtois.
C'est vrai, absolument. Il est couvert. Ouais. Il bénéficie de cette couverture. Eh bien, ça devient, je vous le dis clairement, messieurs, insupportable à mes yeux. Voilà.
D'autant moi, si j'ai juste une chose à faire, entre les massacres, puisqu'on a vu un militant qui avait été lynché, donc du groupe Union Défense en 1990, cette année, par le Bétars au Bon Soin et sous les regards émus de la police de Jox et des caméras de la télévision, s'est rapproché du massacre sur les lieux saints. Nous, c'était pour fêter notre sainte patronne, la sainte patronne des nationales, Jeanne d'Arc. Là, c'est pour fêter. Donc, c'était sur leur lieu saint à Jérusalem, hein, les lieux saints musulmans, avec la mosquée El-Aqsa qui est le troisième lieu saint musulman. Et dans les deux cas, il s'agit de profaner, d'aller massacrer les gens quand ils sont en plein rituel religieux. Alors je dis attention.
Parmi les socialistes, nous dit une auditrice, il y a des idéalistes. Il ne faut pas tout mélanger. Je sais pas, madame, je crois franchement pas. Je crois que maintenant, après 10 ans de pouvoir socialiste en France, les seuls socialistes idéalistes qui restent...
C'était des idéalistes.
Oui, c'est ça.
C'était les idéalistes issus de Rousseau. Hein. Ouais.
Et les fonctionnaires qui respectent la loi en ce moment sont persécutés. Eh bien, ils n'ont qu'à le faire savoir. Ils n'ont qu'à le dire. Il y a une presse. Hein. Moi, je dirige un journal qui s'appelle Minute. J'attends le jour où un fonctionnaire viendra me voir en me disant, monsieur... Je suis persécuté parce que je m'en tiens au strict respect de la loi. Et je vous garantis qu'on l'aidera, et je vous garantis que Présent l'aidera, que National Hebdo l'aidera, que toute la presse nationaliste aidera ce fonctionnaire sans lui demander sa carte de militant politique, parce qu'on s'en fout, s'il est persécuté parce qu'il fait appliquer et respecter la loi. Mais des fonctionnaires qui se rendent coupables de forfaiture ne peuvent pas espérer bénéficier de la compréhension ou de l'indulgence au motif que s'ils ne se rendaient pas coupables de forfaiture, ils seraient persécutés, parce que je vous rappelle que d'après une jurisprudence constante, même en obéissant à des ordres, des fonctionnaires ou des soldats se rendent coupables quand ils obéissent à des ordres qui sont contraires au droit. Hein. On a fusillé quelques dizaines de milliers de Français en 1945, tout simplement parce qu'ils avaient obéi. Et on a considéré que c'était pas suffisant comme excuse. On a foutu en tôle en 1962 quelques centaines de soldats parce qu'ils avaient obéi, et on a considéré que c'était pas suffisant comme excuse. Et moi, je considère aujourd'hui, fort de cette double jurisprudence, que d'obéir à des ordres iniques donnés par de pâles crapules, ça n'exonère pas de la responsabilité.
Et ces officiers de 62, pour beaucoup d'entre eux qui avaient des carrières prometteuses, ont tout quitté au risque de compromettre, et ils l'ont compromis, leur carrière et leur famille, alors que maintenant nous avons des généraux qui se mettent au garde à vous devant des porteurs de valises. Voilà la différence peut-être. Il y a ceux qui sont debout et ceux qui sont couchés.
Alors maintenant on va se calmer un peu parce que... Oui, juste avant, Nicolas veut nous dire
une petite annonce... Le dimanche 14 octobre à 15h à l'hôtel Frantour-Suffrenne, 20 rue Jean Rey, métro Bir Hakeim, Jean Faure fait une conférence sur les saints protecteurs de Paris. Et le jeudi 25 octobre à 20h, 16 rue de la Sorbonne avec Jacques Darès, Notre-Dame de Paris, univers de symboles avec projection. Donc je répète, le 14 octobre à l'hôtel Frantour-Suffrenne. Les saints protecteurs de Paris. Je voudrais dire une chose, 15h, puisqu'on a beaucoup cartonné sur les francs-maçons, les ceci, les cela ce soir, je voudrais quand même un petit peu cartonner à mon tour sur les catholiques, parce que Jean Faure, pour sa conférence le 6 et le 7 octobre, n'a eu que dizaines de personnes pour parler de Notre-Dame de Paris. Or, comme nous sommes en pleine tribulation de l'Apocalypse et que l'on s'approche lentement mais sûrement d'une part de la fin du monde bourgeois, du monde du règne de la quantité, mais également de la fin du monde tout court, il serait temps quand même de savoir la symbolique des demeures philosophales, et il est bon de préparer son âme en allant par exemple également aux conférences de Jean Faure.
Alors vous pouvez nous rappeler quand? On va le noter.
Alors le 14 octobre à 15h à l'hôtel Frantour-Suffrenne, 20 rue Jean Rey, métro Bir Hakeim, les saints protecteurs de Paris.
14 octobre, 15h, hôtel Frantour.
Ouais. Et le 25 octobre, à 20h, là il faudra le rappeler la semaine prochaine, Notre-Dame de Paris, univers de symboles, avec Jacques Darès et les projections.
Jacques Darès, c'est le directeur en chef d'Atlantis.
C'est ça,
oui,
d'Atlantis.
Dites-moi ça plus lentement.
Oui. Il va venir nous voir dans 3 semaines, je crois, à peu près.
Jeudi 25 octobre à 20h, 16 bis rue de la Sorbonne, avec Jacques Darès. Alors c'est très bien de mener le combat sur le front exotérique, mais c'est bien aussi de le mener sur le front ésotérique.
Mais l'un ne va pas sans l'autre, mon cher Nicolas, car si on n'est pas enraciné dans la tradition, on n'a rien à faire dans l'action.
Tout à fait.
Voilà, dès que M. Sidos et M. Boudard auront fini leur aparté, nous pourrons
mettre basse.
Chuchotement.
Liancourt.
Qui était un sanatorium pénitence.
Ah, exactement. Il faut que tu t'approches du micro parce qu'on n'entend pas du tout.
Oui, mon frère Jacques a connu M. Boudard, et mon frère Jacques a été le plus jeune prisonnier politique. Après 45, il avait 16 ans et demi.
Bah, dites donc.
Et il a passé 10 Noëls en captivité. Alors, quand on vient me parler de liberté de la part de certains, il recommence. Et justement, il me parlait toujours avec beaucoup d'émotion de Monsieur Boudard. Je lui dirais que je vous ai rencontré.
Ah ben voilà. Alphonse, on va pas parler ce soir de cette période ou de Liancourt, encore que je fais une confidence personnelle. Moi, je connais Liancourt parce que j'allais donner des représentations théâtrales avec une troupe qui s'appelait Ars et Caritas. Harry Charité.
Au sanatorium Michel. Il y avait le sanatorium pénitentiaire.
C'était le sanatorium pénitentiaire.
Il y avait un autre qui était un sanat tout à fait.
Mais on jouait devant
la sécurité sociale.
On jouait devant des truands. Ah, moi j'étais très inquiet parce qu'il n'y avait pas de grillage entre la scène et la salle.
Oui, il n'y avait aucun problème.
Non, j'avais peur qu'ils
étaient un peu essoufflés, ceux-là.
Ouais. Alphonse, je t'ai demandé de venir parce que il y a un film qui vient de sortir. Et à l'élaboration duquel tu as participé.
Non, j'ai pas participé.
Tu n'as pas du tout participé.
Non.
Même de loin.
Ils m'ont dit avoir utilisé mon livre.
Ah oui.
Mais j'ai pas participé au film. Alors je suis d'autant plus libre
d'en parler.
Oui, libre pour en parler. Et je dis qu'il est très réussi.
Je croyais qu'au moins comme conseiller technique, c'est Docteur Petiot aussi.
Alors quand j'ai été voir le film, je m'attendais à je ne sais quoi parce que c'est une affaire tellement longue, tellement compliquée. Je suis actuellement en train de le traiter là en 6 passages, en 6 articles dans Détective.
On va parler de Détective aussi, parce que là, il s'est passé une chose extraordinaire. Ce journal, qui était considéré, bon, disons les choses clairement, qui était considéré depuis des années et des années comme un journal de conspige, un journal de concierge.
Oui, mais alors là, justement,
il y a eu une révolution.
Non, mais je vais le défendre. Ce journal considéré comme un journal de concierge a été créé en 1928 par Kessel et ont participé au début du journal Macorlan. Mm-hmm. Siménon, c'est-à-dire au temps où il n'était que Sim. On a eu des papiers à l'époque de Morand. On a eu la collaboration alors d'un remarquable fait diversier qui était Marcel Montaron,
Marcel admirable
toujours.
Oui.
Et l'idée avait été de faire, au fond, c'est le premier journal de faits divers. Mm-hmm. Bon. Alors, par la suite, il a faibli, bien sûr. Il y a eu des collaborateurs moins prestigieux, mais je dois dire que les gens qui travaillent là sont toujours soucieux de l'information exacte, parce qu'ils sont surveillés, alors là, de très près, et que, mis à part une période où ils ont fait du titre racoleur, parce qu'il fallait vendre. Alors c'était, il a livré sa femme à 3 Arabes dans le bois de Boulogne. Alors ça faisait vendre. Et c'était vrai aussi, remarque. Oui. Mais on en faisait un gros titre.
C'est pas pour moi une motivation d'achat très forte.
Non, mais ça.
Chacun ses goûts.
Et effectivement, quand j'ai eu on m'a proposé de travailler à ce journal, je me suis dit, bon, c'est le truc de concierge. Mais auparavant, je l'avais découvert parce que, en faisant un certain nombre de sujets pour le cinéma et puis pour le livre Les Grands Criminels, j'ai été consulter leur collection et je me suis aperçu que dans toutes ces affaires, c'était le mieux. C'était ce qu'il y avait de mieux fait. C'était bien foutu.
Ouais.
Si j'ai aujourd'hui à m'occuper d'un sujet, d'une affaire de faits divers de 1937 ou 1950, je prends dans la collection de détectives, j'ai eu à traiter Laetitia Toureau, c'est remarquablement fait dans Détective. Voilà.
Laetitia Toureau, c'est la dame qui avait été assassinée par les amis de Mitterrand.
Ça c'est les différentes thèses qui s'affrontent, mais Laetitia Toureau, c'est un mystère.
Il y a Pierre Meunier qui est là, qui pourrait nous dire des choses d'ailleurs entre Pierre
sur Laetitia Toureau.
Non, je ne sais pas sur Laetitia Toureau, mais enfin sur il veut pas. Il a toujours prétendu il a toujours prétendu qu'il n'avait pas de preuves. Sur la responsabilité de Mitterrand dans l'assassinat de Laetitia Toureau.
C'était un copain de Mitterrand.
Voilà, c'est ça. C'était un copain de Mitterrand qui s'appelait comment?
Oui, on a parlé de la
Jean.
Ça c'est la, l'histoire de la cagoule autour de Laetitia Toureau, mais rien. En dernier, puisqu'on parle de ça, il y a un type qui s'est accusé il y a environ une quinzaine d'années, qui a écrit aux flics
et qui a expliqué d'une façon à peu près plausible. Il a donné certains détails que seuls les enquêteurs connaissaient, alors on pense que c'est lui le coupable. C'est une affaire passionnelle.
Passionnelle. C'est dommage, ça aurait été plus joli si elle avait été tombée sous le coup de la caméra.
C'est comme quand en Italie on trouve Bottecchia, le champion cycliste, assassiné dans un verger. Tout le monde part là-dessus. Alors on dit c'est les communistes, c'est les fascistes, enfin, on cherche. Et puis 30 ans après, un paysan se confesse et il dit je vais mourir bientôt et je vais vous avouer qu'il y a monsieur Bottecchia qui est venu dans mon verger pour piquer des pommes ou des prunes. J'ai fusé un coup de fusil et il est mort et je demande le pardon de mon péché. Mais n'empêche qu'on avait quand même fait des beaux articles en attendant. Alors souvent, il y a la conclusion imbécile.
Donc, revenons dans un premier temps à un détective qui est redevenu un journal de faits divers avec des signatures prestigieuses, prestigieuses dont la tienne, qui n'est pas rien quand même. Si j'avais su que tu voulais faire de la presse, je t'aurais proposé de travailler à Minute depuis longtemps.
Mais là, j'ai une spécialité. Il y a aussi le Taillanterre qui donne des papiers là-dedans. Bon. Enfin, on essaye de faire un journal.
Alors,
voilà. Alors, on va parler de Petiot. C'est ça.
Maintenant, on va parler de Petiot, oui.
Alors ça, c'est un sujet, on pourrait en parler des heures, hein. Petiot, c'est interminable, cette affaire. Le mérite du film de Challonge, c'est d'avoir réussi à faire une espèce d'histoire qui dure une heure et demie, et qui a tout transposé, en étant exact. Le personnage est exact, le personnage interprété par Serrault est criant de vérité. Or, on est dans un film qui est un peu Nosferatu. C'est un peu un film d'expressionniste
allemand. Avec la référence au début.
Avec la référence au début qui est très très évidente, mais rien n'est faux. C'est-à-dire, on est dans le détail, évidemment, quand on arrête Petiot, ça s'est pas passé de cette façon, etc. Mais l'ensemble est tout à fait juste. En tout cas, sur la complexité du personnage.
Ce que vous pourrez nous raconter, c'est quand même d'où il venait, parce qu'on l'a présenté comme un nazi, alors que c'était un homme de gauche, au moins, puisqu'il a été élu maire socialiste, je crois, avant guerre.
Ce que je voudrais, c'est qu'Alphonse, justement, qui a écrit un chapitre entier sur Petiot dans ce livre, Les Grands Criminels, dont on avait parlé.
C'est difficile de le rattacher à quoi que ce soit, ce Petiot.
Mais je crois que tu pourras nous raconter.
Dans les gros traits. Bon, d'abord, il a une enfance, il est le fils d'un fonctionnaire des postes. Il a une enfance curieuse parce qu'il est, chez une nourrice et il est bouillant un chat. Ensuite, c'est plus tard. C'est un peu plus tard l'histoire de l'anus. C'est là il vole des lettres dans les boîtes aux lettres. Il a 12-13 ans et puis il les décachette et puis il envoie à l'amant la lettre du mari, etc. Il fait le sac de nœuds épouvantable dans le corbeau, totalement. Et ça, il est brillant, il est intelligent, il est considéré comme intelligent. Et puis arrive la période de la guerre de 14, il s'engage en 1916, il est blessé au pied, et à la fin de sa convalescence, on passe un examen psychiatrique, et là, on le trouve dingue. Alors, première chose, on le trouve, alors vraiment, le rapport est très très fort. Alors, il est enfermé pour le restant de ses jours. Mais, il arrive quand même à s'en sortir. Bon, miracle, les psychiatres se contredisent, il sort, et il commence ses études de médecine. D'ailleurs, il aura une chose qui est très très drôle qu'on ne dit pas, c'est qu'il a amorcé une thèse sur la folie de Landru.
Ah, ça c'est très drôle.
Il a commencé à travailler là-dessus, puis il a abandonné. Alors, comme il était ancien combattant, il a eu des facilités, puis il est devenu docteur en médecine, il s'est installé.
Mais déjà, il y a quand même un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que ce type qui est dingue, dont on sait qu'il est parfaitement dingue.
Tout le temps, ça va être ça. On s'est dit qu'il est dingue, il va être médecin. Il est médecin.
Ça ne marchait pas mieux à l'époque que maintenant. Hein.
Il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne, c'est donc sa région, et il est d'abord considéré comme un assez bon médecin. Et le film, d'ailleurs, montrera très bien que cet homme pouvait
allait soigner gratuitement des gens.
Dont une petite fille.
Dont une petite fille leucémique, et avec beaucoup de dévouement. C'est Real Dr. Jekyll, Mr. Hyde, hein, chez lui. Et dans cette période, il va essayer de faire une carrière politique. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a traité un livre sur la tentative politique de Petiot. Alors, il se présente comme radical de gauche, enfin une étiquette comme ça, un petit peu
républicain de gauche.
Républicain de gauche, voilà, républicain de gauche. Mais alors, il y a d'autres gens de gauche qui lui en veulent. Bon, alors, il est élu maire de Villeneuve. Et là, alors il se marie, la femme de Petiot dira toujours qu'il a été un très bon mari, sans aucun problème, parce qu'il faut dire que par la suite, on l'a interrogé, cette dame. Et alors là, il y a déjà, alors j'oubliais une chose, dans la première période, il a une bonne, Louisette. Une petite bonne, Louisette. Cette petite bonne raconte dans le pays qu'elle est enceinte, mais que le médecin arrangera ça. Elle disparaît. On fait une enquête très vague, et quelques temps après, dans la région, on a trouvé un cadavre d'une jeune fille, la tête coupée. On n'a pas été plus loin. Bon. Il devient maire de Villeneuve. Là, on remarque plusieurs choses où il est assez curieux. C'est qu'il est kleptomane. Il va chez ses clients, mais il emporte des petites choses sans intérêt. C'est-à-dire, il vient là, il emporte un stylo, il emporte un cendrier. C'est n'importe quoi. Il est kleptomane. Bon. Il a une première affaire qui est un petit peu douloureuse. C'est l'affaire de la laiterie avec Madame de Beauve. Alors, cette femme a une laiterie. La laiterie brûle. On intervient, Petiot est là d'ailleurs, on trouve cette femme assassinée à coups de marteau dans la laiterie, elle a brûlé. Dans la caisse, il y avait une somme de 250 000 francs, il en manque 8 000. Dans la politique, c'est un peu cloche-merle là, à Villeneuve à ce moment-là. Il dit, le docteur Petiot, je l'ai vu par là, il faut l'interroger, on ne pousse pas plus loin. Et puis ce malheureux type, alors là, vraiment, lui, c'est vraiment le roi des caves. Il a des douleurs rhumatismales. Il rencontre Petiot 3 semaines après. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Vous traînez la patte? Il dit, mais, oh, ça va pas, mais écoutez, venez me voir, je vais vous faire des piqûres. Vous avez dit du mal de moi, ça fait rien. Je vais vous soigner. Il va voir Petiot. On fait les piqûres et il est mort le lendemain. Et on pousse pas plus loin. Bon. Est-ce qu'il va le faire virer?
C'est Jacques qui était ministre de l'Intérieur à l'époque ou quoi?
Non, alors attendez, non, vous allez voir, le ministre de l'Intérieur, le premier ministre, le président du Conseil, c'est Laval.
Ah.
Et le président de la République, c'est Doumer. Et quand il va détourner l'électricité à son profit, il va être révoqué de sa place de maire. Et auparavant, il s'était présenté à des élections générales comme rival de Pierre-Étienne Flandin.
Ah.
Et il a failli le coiffer au poteau.
Le grand Flandin.
Voilà. Bon. Alors, il est viré, et il vient à Paris. Bon. Et il s'installe, 66, rue Comartin. Là, on a le prospectus de Petiot. Il serait à lire en entier.
Oui, c'est
C'est un prospectus de...
Il y a tout.
Oui, vas-y.
Il soigne notamment, il a été le promoteur en 21-23 d'une technique parvenant à la suppression complète de la douleur dans les accouchements, cela sans anesthésie régionale ou générale et sans instrument plus ou moins dangereux. Cette méthode permet de supprimer aussi la douleur dans les affections même les plus pénibles, sciatique, rhumatisme, névralgie, zona, névrite, ulcération, cancer. Il soigne aussi les maladies nerveuses. Il a été créateur avec un physiologiste connu, mais dont il donne pas le nom, d'un matériel et d'une technique permettant d'obtenir la guérison de toute tumeur non généralisée. Ah,
puisqu'il est connu,
cette désignation comprend non seulement les ganglions externes ou internes, les loupes, les lipomes, les polypes, les végétations, les verrues, les taches rouges, les goitres, les déformations, les tatouages, les cicatrices, mais aussi les fibromes, les tumeurs malignes, les cancers même profonds avant leur extension terminale. L'application aux ulcères, aux varices, aux hémorroïdes, et
est évidemment très vite suivi de résultats définitifs, surtout s'il est scratch. Mes principes analogues permettent de régler le fonctionnement des glandes endocrines et de traiter les états généraux déficients, artériosclérose, anémie, obésité, retour d'âge, diabète, défaillance cardiaque ou rénale, arthrite, dépression nerveuse, sénité. J'en passe, il y a deux pages comme ça.
Oui, il y a deux pages. Il y a deux pages entières.
C'est gay. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils liquidaient les gens, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient des loupes, des varices.
Ça arrive plus tard. Alors, premier temps, il est entre 1931, je crois, à rue Caumartin et 36, sans incident notable. Mais, et cependant, il gagne plus d'argent qu'il n'en déclare. Ce qui fait qu'il aura, sur l'année 1935, une déclaration d'impôt de 35 000 francs et les archers du fisc vont s'apercevoir qu'il en a gagné 500 000.
Il aurait fait un parfait ministre socialiste.
Alors,
ressemblant.
Il a été élu comme tel. Hein. Il était dans le bloc.
On suppose, mais alors avec vraiment des preuves presque à l'appui, qu'il faisait des avortements. Alors à l'époque, c'était interdit et un médecin pouvait se retrouver avec une peine de travaux forcés pour avortement. Et lui devait faire payer très cher ses interventions.
Il se disait gynécologue.
Oui. Donc, et puis aussi, il faisait des...
La chirurgie ?
Non, pas que la chirurgie. Là, il faisait des ordonnances de complaisance pour les drogués. Et on suppose que c'est de cette façon qu'il a gagné beaucoup d'argent. Parce qu'au moment où la véritable affaire Petiot va commencer, donc en 1942, cet homme-là a du fric. Il a acheté des immeubles. Il a acheté notamment le 21 de la rue Le Sueur, qui était un hôtel particulier, où avait habité, l'ai-je bien descendu, la madame
Cécile Sorel.
Et il a des immeubles à Villeneuve, il en a dans Paris. Donc il fait du fric. Il mène pas une vie dissolue, comme on pourrait dire, pas du tout. Il va un peu à la salle des ventes, il achète des bricoles, mais on ne remarque pas qu'il mène une vie de satrape. Il a une vie tout à fait ordinaire d'un médecin de quartier. Et toujours, il soigne des gens qui n'ont pas de quoi payer, un peu comme Céline dans Le Voyage au bout de la nuit.
Il n'est pas socialiste.
Il soigne les pauvres. Bon. Et mais, alors, en 36, qu'est-ce qui va se passer? Un certain jour, il va chez Gibert, il vole un livre, avenue Boulevard Saint-Michel. On l'arrête, et là, il leur déclare, j'ai inventé le mouvement perpétuel, j'ai inventé une machine à refouler les matières fécales. Il avait donc fait des expériences épouvantables sur des chats qu'il avait cousu l'anus. Et alors le commissaire de police qui l'a arrêté dit j'ai affaire à un parfait dingue et l'envoie au dingue. Alors on l'envoie au dingue et là évidemment il évite d'aller devant la justice et j'ai le texte ici, il est là, on reconnaît accès dépressif, déséquilibre psychique, état de démence au moment de l'action, la véritable figure du docteur Petiot est celle d'un individu sans scrupules et dépourvu de sens moral. Précaution à prendre, car il pourrait troubler l'ordre public. Bon, alors...
C'est Madame Soleil qui a écrit ça.
C'est Madame Soleil. Maintenant, 7 mois plus tard, il sort de l'asile d'Ivry, il reprend son travail dans son cabinet, et il est nommé médecin d'état civil du 9e arrondissement. Tout ça est formidable, quand même. Parce qu'on s'aperçoit qu'on peut exercer la médecine, et voilà, et il continue. Et là, rien ne se passe de particulier, si ce n'est ces petites histoires avec le fisc, jusqu'à l'occupation. Alors, va commencer toute cette histoire extraordinaire. Alors d'abord, il y a une sorte de préméditation totale, puisque 6 mois avant, il fait faire des travaux dans l'hôtel particulier, il fait faire un mur, parce qu'il dira aux ouvriers qu'il ne faut pas que les gens des alentours puissent regarder ses patients, ça les gênerait. Et puis il fait faire cette pièce triangulaire. Alors, pièce triangulaire, dit-il, où il va faire des travaux de radiographie, et où il a fait mettre un viseur pour regarder...
Un œilleton, quoi.
Oui, un œilleton pour regarder. D'ailleurs, il est au musée de la préfecture, l'œilleton de Petiot. Et puis voilà, il est installé et on attend un certain temps et l'affaire Petiot, si vous voulez précisément, commence. Mais elle sera très 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 trouble. Alors bon, le procédé est simple, il y a des gens qui ont, des gens différents d'ailleurs, qui ont besoin de foutre le camp de la France occupée à l'époque. Donc les juifs, il a des clients juifs. Et puis
quelques truands qui veulent pas aller au FDO.
Pas qu'ils veulent pas aller au stéo, ouais. les truands, ils ont truandé à mort, ils ont plein de fric, ils ont la PJ au cul et ils veulent foutre le camp. Voilà, il en a quatre qui liquident. Et quatre, et les dames avec. Et comme ces truands avaient plus ou moins marché avec la Gestapo de la rue Lauriston, à son procès, Petiot dira, mais ceux-là, bien sûr, je les ai tués, c'était des traîtres, c'était des salauds. Et le président lui dit, oui, mais les femmes, ils étaient partis chacun avec leur gagne-pain. Leur dame. Alors, Petiot dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Alors là, la salle murmure, vous voyez, bon, etc. Et il ajoute, pour les féministes, après tout, ce n'était que des femmes. Alors là, c'est des répliques qu'on n'invente pas. Bon, alors, il va liquider un certain nombre de personnes de cette façon. Mais, sans qu'on sache précisément ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'on arrivera...
Ni combien.
Alors, c'est 27. 27 grâce aux valises qu'on retrouvera par la suite à Villeneuve. Mmh. Et pas grâce aux vêtements qu'il y a dans ces valises. On arrivera à remonter tous, les femmes ou filles.
Parce que les gens viendront reconnaître, d'ailleurs.
Ils viendront reconnaître. La première qui sera découverte, c'est une pute, précisément, qui allait s'habiller à tel endroit à Marseille. Alors on trouve les marques et on dit, c'est Paulette qui était là, bon, etc. Alors donc, celle-là sera découverte de cette façon. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Alors, dans une première période qui va du début 42 jusqu'à mai 43, donc il y a 27 personnes, plus d'autres, parce que Petiot dira, mais moi j'en ai pas tué 27, j'en ai tué 63, c'était pour la résistance. Il nous a tué des juifs, mais c'était des juifs allemands envoyés par Hitler. Il a des réponses fabuleuses à tous les coups, Petiot. Alors, pas de problème. Il a inventé un réseau qui s'appelle Flitox, et il se défend pas d'avoir tué des gens. Il ne dira jamais comment il les a bousillés. Il dit, je l'ai tué j'étais dans un camion, puis je l'ai liquidé. Enfin, il me raconte des histoires très très bizarres, on n'arrive pas à savoir. Bon. Alors, jusqu'en 43.
Mais je t'arrête un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un réseau? Est-ce qu'il n'a pas des gens qui lui envoient des gens?
Ah ben alors là, au moment où il va avoir besoin de les premiers clients, il les trouve. Parce que les premiers clients, c'est par exemple un juif qui s'appelle Gouchinov, qui est fourreur et qui se fait soigner chez lui pour le diabète. Je lui dirai, dis donc, je voudrais foutre le camp, les cheveux vont me piquer. Bon, très bien, j'ai une combine, donnez-moi 50 000 balles. Vous venez avec
toutes vos valeurs,
et puis on y va. Et le type a rendez-vous avec Petiot un certain soir près de la place de l'Étoile et on le revoit plus. Voilà. Et Madame Gouchinov dit, mais où il est passé? Mais alors, ce qu'il y a, c'est la période. Elle peut rien dire, cette femme. Qui va-t-elle trouver? Elle va trouver les flics. Fils, bon, il est parti, votre mari s'est débiné, il a passé en zone libre, et puis voilà, on cherche pas, les flics cherchent pas ça. On va pas aller trouver les Allemands, hein. Alors, personne ne cherche ces gens-là. Parce qu'à l'époque, moi j'ai vécu cette époque, j'avais un copain, tout d'un coup je le voyais plus. Il est parti dans un maquis, par exemple, ou il a passé en Espagne. J'en ai connu qui sont passés en Espagne. Il y avait toutes sortes de gens qui se débinaient et on les cherchait plus. Alors les juifs encore plus. Un juif, il se taillait, bon, il est plus là. Alors donc, Petiot, il est là, à son aise dans cette période. Alors évidemment, il a des rabatteurs. Alors les rabatteurs, ça c'est encore très curieux. Et cette époque est une époque phénoménale. Je vous livrerai tout à l'heure en finale un texte de Galtier-Boissière qui l'a défini très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, on pense à ça, on dit il y a les nazis qui arrêtent les juifs, etc. Or la rabatteuse numéro 1 de Petiot est une juive roumaine qui s'appelle Erian Khan, qui est la maîtresse d'un officier allemand, et qui envoie des juifs à Petiot. Alors, par la suite, elle a été emmerdée parce qu'elle avait un amant allemand, mais non pas parce qu'elle envoyait ses coreligionnaires à Petiot, ce qui est tout de même énorme. Alors, elle a dit, moi je croyais qu'il partait. Mais dans quelle mesure? Mais elle prenait de l'argent, au passage. C'est très beau de la solidarité religieuse, mais enfin quand même, c'était 50 000 balles au passage. Puis alors, il y a un coiffeur en
salon de coiffure, oui.
Et le perruquier qui est avec lui, qui sont les rabatteurs de Petiot et qui lui amènent du monde. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Alors, je vous passe les histoires parce qu'elles n'en finissent plus. Un beau jour, il est arrêté par les Allemands qui, eux, évidemment, s'intéresse à ce type qui fait passer des gens en Argentine, on ne sait plus. Alors, il est arrêté. Il y a d'abord des histoires rocambolesques, là. Il y en a un qui peut... Il arrive à les feinter avec un type. On lui a mis un type dans les bras, un nommé Dreyfus, qui a été téléguidé par les Allemands et qui marchait avec les Allemands.
Qui a été libéré à condition de le piéger.
Il est libéré à condition de faire piquer Petiot. Et ce Dreyfus arrive à se débiner des pattes des Allemands et il va dans la chaudière de Petiot. C'est extraordinaire, hein. Bon. Alors, il finit par être arrêté, et là, dira-t-il, il est arrêté, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas une Gestapo. Il y a 36 000 services. Alors, il a été loupé par ceux qui cherchaient un type qui faisait passer les Juifs, et il est arrêté par un type qui s'occupe de déserteurs de l'armée allemande. Alors, il prétendra par la suite qu'il est torturé, et il reste, donc, de mai à janvier 44, à Fresnes. Bon, alors, on suppose que pendant cette période, il a vu des vrais résistants. Il s'est fait passer pour le chef d'un réseau fantôme qui est Flitox. Il a entendu des conversations. Il est devenu copain avec ces gens-là. Et ça l'aidera par la suite à réapparaître dans la peau d'un résistant. Et notamment dans la peau d'un communiste.
Un résistant communiste, oui.
Alors, en janvier, il sort de Fresnes. Mais là, il y a des mystères extraordinaires. Il sort de Fresnes, il va rue Le Sueur, il ne va pas tout de suite rue Le Sueur, il va se reposer dans sa propriété à Villeneuve. Et puis son frère va rue Le Sueur, lui dit, dis donc, il y a des cadavres là-dedans, on va s'en occuper. Alors, Petiot va voir, il dit, mais tiens, ça doit être mes copains de la résistance qui ont laissé des cadavres là-dedans. Bon, alors on fait venir de la chaux-vive, et puis Petiot vient s'en occuper deux mois après. Et c'est là qu'il est, ce qu'on voit dans le film, je sais pas, la chaudière, les morceaux coupés en morceaux de cadavres et on les passe à la casserole. Mais, ce qui reste toujours un mystère, c'est que ces cadavres qu'on trouvera en mars 44 ne sont pas ceux que Petiot a pu liquider en 42.
Parce qu'il était en tôle.
C'est pas possible. Non, mais oui. Il y a eu cette période de 8 mois. Alors, il y aurait des gens qui seraient à l'état de cadavre dans l'hôtel particulier de Petiot.
En cadavre
depuis
frais.
2 ans.
Et frais.
Frais. Bon. le docteur Paul trouvera à peu près 10 cadavres qu'il peut reconstituer, plus des morceaux de toutes sortes, et on ne sait pas au juste. Bon. Alors, le jour où il y a l'incendie, alors là, tous les détails sont croustillants parce que on appelle les pompiers. Bon. On appelle les flics sont là. On appelle la concierge dit, mais c'est Monsieur Petiot qui est le propriétaire, il habite rue Caumartin, elle téléphone, il dit, mais vous en faites pas, j'arrive. Bon, on suppose qu'il va se débiner, pas du tout. Alors il y a un flic qui, voyant les morceaux de cadavre, s'évanouit, le flic. Bon, Petiot arrive sur son vélo, et il rentre. Il fend la foule, il rentre. Il descend vers le fourneau, il regarde un petit peu les choses, il emporte une serviette, d'ailleurs, on pense. Et puis, un des flics lui dit, mais dites donc, restez là, le flic, l'agent vert. Alors,
c'est un futé.
Le flic lui dit, mais vous êtes français? Alors, on est à la période où le débarquement est proche. Vous êtes français? Bon, si, c'est des cadavres, ce sont des collabos et des Allemands. Ah bon, des vies, allez, hop. Il se barre, il s'en va. Le flic, après, inutile de dire. Alors, il raconte, on se croirait dans Courteline, là. Il dit, il ne m'avait pas dit qu'il était le docteur Petiot. Bon, mais il ne m'avait pas dit qu'il était le docteur. Alors, on lui tape sur les doigts, au gars. Bon, alors là, on le met au piqué. Hein. Il est dégradé. Et à la libération, il expliquera qu'il avait cru vraiment faire un acte de résistance. Et hop, on le remet en temps de grade. Ça, c'est le destin qui est à côté de celui de Petiot. Alors là, Petiot se débine. Il est dans la nature. Alors l'enquête démarre mal parce que le commissaire Massu à qui on va confier l'affaire voit ça et se dit mais qu'est-ce qu'il y a, parce que dans le coin il y a en plus les personnages de Bonnie Lafont,
oui, qui sont
de Gestapo, et on sait qu'il y a eu des contacts entre Petiot et ces gens-là puisqu'il a soigné le neveu de Lafont, Clavier, d'une vérole. Alors on sait qu'il y a des contacts et on s'est souvent demandé si c'est une possibilité.
les gens de la rue Lauriston ne donnaient pas leur, c'est ce qui est illustré dans le film, ne donnaient pas leur cadavre à liquider au docteur Petiot. Et en tout cas, les quatre truands qui ont été là, ils étaient en froid avec le patron, avec Lafont.
Monsieur Lafont.
Alors peut-être qu'il a dit, tiens, j'ai un truc pour vous, pour partir en Argentine, et on les a plus revus. Et ils se partageaient le magot. Parce qu'il reste l'histoire du magot. C'est que Petiot, on estime au minimum, à 200 millions, le fric qu'il a ramassé, 200 millions
d'époque.
De 44. Ça on n'a pas retrouvé un rond. Vous comprenez? Ouais. Ben, ça correspond à quoi? Je ne sais pas vous dire, 2 milliards. Enfin, c'est une somme colossale. Et on n'a rien retrouvé. Ça, mystère. Parce que souvent, dans ces histoires, on ne sait pas où est passé le magot. Alors, parce que chez Petiot, il y a un magot énorme. Alors, pendant la période où il a fait ça, il n'a pas fait d'achats spéciaux. Hein. Il a rien, il a dû acheter une petite maison en plus, c'est tout. Ça n'a pas bougé. Alors, on connaît mal les motivations de ce personnage. C'est-à-dire, il y a quand même une part de folie, puisqu'elle a été quand même vue au moment où il est sorti du service militaire et au cours de cette affaire du vol de livres. Il y a un moment où ce personnage est une espèce de fou extraordinairement structuré dans sa tête qui déraille par moments. Et ça, c'est la bonne approche aussi du film.
Très bien. Alors, il n'a pas du gain aussi, peut-être.
Mais il n'a pas du gain.
C'est un avare. Très...
Oui, mais alors il n'a pas du gain. Où est passé l'argent? Et pourquoi tout ce fric qui a circulé dans ses mains à ce moment-là, où est-il? Alors, on sait qu'il y en a des tas d'autres qui ont gagné de l'argent. Et je dis, moi, que quand on a jugé Petiot, on n'a pas jugé son frère, on n'a pas jugé les deux coiffeurs, on n'a pas jugé Ariane Kahn, il y avait des complices. Pourquoi on a jugé que Petiot, finalement, il a été le bouc émissaire d'un réseau flottant? Il fout le camp. On ne le retrouve pas. Alors, cette période-là, il est chez un militant communiste, un ouvrier, et il couche chez lui, ce monsieur s'appelle Rétoré, et pourquoi ce gars prend-il Petiot chez lui? Parce que tout de même, l'affaire a fait du bruit dans les journaux. Alors là, il faut admettre qu'un militant du PC ne cachait pas un assassin de droit commun, évident. Donc, la thèse Petiot résistant, il avait réussi à l'accréditer auprès de la direction, enfin auprès des dirigeants clandestins du PC. Il réapparaît à la Libération avec une barbe
et un grade.
Il est capitaine et il va piquer des papiers et il est le capitaine Valéry. Et là, il est chargé de l'épuration.
Féroce.
Il est à la caserne Reuilly. Ben, il est féroce. J'ai connu un type qui a eu affaire à Petiot. Il m'a dit non, il n'avait pas été féroce du tout avec moi. J'ai rencontré un type qui m'avait raconté ça. Il m'a dit non, il était très gentil. Il y en avait des pires que lui. Oui. Bon, alors donc pendant cette période, là, il y a des choses encore bizarres qui vont tourner autour de lui. C'est que il y a des exactions qui sont faites un peu partout. Et on suppose que c'est Petiot qui envoie des gens. Notamment l'assassinat d'un collectionneur de timbres dans les Yvelines, qu'on a liquidé à coups de marteau, on a emporté la collection, et puis on a arrêté ensuite les deux coupables, parce que l'autorité quand même s'est rendu compte que c'était des truands et non pas...
Des résistants.
Et ces deux coupables à la santé ont été libérés sur intervention de Petiot, qui était devenu persona grata à la caserne Reuilly, où il était là, où il avait ses bureaux.
Et il a déjà là sa carte, il montre déjà sa carte du parti.
Parce que ça,
un peu faible, où on montre pas l'implication communiste.
Il a pris sa carte du parti, il a pris sa carte de France-Urse, mais il a pris ce qu'il faut. Hein, c'est pas sympa, il a pris toutes ses précautions. Alors on a le sentiment, mais là ça serait très long de vous détailler ça, que pendant un moment, le PC le protège. On accrédite une histoire de lettres qu'il aurait écrite parce qu'un article était paru dans un journal le disant collaborationniste, et qu'en comparant
la lettre et le...
On est remonté jusqu'à lui. Mais un certain capitaine Simonin qui l'a arrêté, l'arrestation de Petiot est très curieuse, parce que si on remonte à Petiot par l'écriture, on va à la caserne et on l'arrête. Or, Simonin et les gens de la DGER veulent arrêter Petiot à la caserne, mais à la caserne, on leur ferme la porte au nez et on dit pas question. Alors, ils vont arrêter Petiot sur un quai de métro en le ceinturant et en l'embarquant pour le livrer à la PJ et au juge d'instruction. Pourquoi ? Pourquoi les choses ne sont pas faites clairement ? Ça, c'est une question. Et ensuite, ce Simonin sera en butte au PC, qui va commencer à raconter l'histoire d'un, ce soi-disant, disent-ils, capitaine Simonin, qui en réalité s'appelle Soutif, et qui a été à la Gestapo de Quimper. Or, tout est faux. Simonin sera réhabilité par un jury d'honneur de la police. Et pendant toute sa... Enfin, il existe encore, ce monsieur. Et pendant toute sa vie, il est pourchassé par le Parti communiste. C'est-à-dire qu'un certain temps, il me semble qu'ils ont pu utiliser Petiot comme exécuteur de hautes œuvres, ou de très basses œuvres, on n'est pas là. Et puis, tout d'un coup, on lâche. Il y a un moment où c'est vraiment le boisson épouvantable, on lâche. Et puis alors, après, on va aller vers un procès qui sera un peu bâclé, à mon avis.
Oui, il est arrêté en...
Il y a une question qui arrive, là, je te coupe une seconde. C'est intéressant, une auditrice qui dit, est-ce que l'argent de Petiot n'aurait pas servi à alimenter les caisses du Parti communiste?
Alors, oui, alors là, tout est possible, parce qu'il y a aussi l'argent de Petiot qui peut aller dans les mains des gestapistes, et qu'on retrouve avec des gens comme Ricord, qui ensuite, en Amérique du Sud, se sont lancés dans les affaires de drogue. Et là... C'est très difficile, on peut pas lancer une accusation. C'est pas tout est possible, et tout est possible à cette époque. Et au procès, Petiot va dire, j'étais résistant, j'avais le réseau Flitox, et j'ai
tué beaucoup de mouchards.
J'ai tué des mouchards, et je suis un héros. Et son avocat, Floriot, va essayer de défendre cette thèse.
Alors, le jour où il a pris Floriot, il était condamné à mort.
Remarque, il l'avait déjà eu avant, hein, et il s'en était bien tiré. Alors, le procès est assez... un peu bâclé, je vous dis, parce que je pense qu'on aurait dû... il aurait dû y avoir plusieurs personnes dans le box, pas seulement Petiot. Mais le personnage était très très représentatif de l'époque. Alors, Galtier-Boissière, qui suivait le procès, lui avait remarqué que le procureur et le président n'allaient jamais au bout des questions dès que le Parti communiste était en cause. Ils avaient peur. Bon. Et il résume assez bien les choses, là, Galtier, dans son journal. Alors, il dit à un moment donné, comme apparaît dans la vase d'un étang que l'on cure, toute une faune bizarre, visqueuse et répugnante, ce hideux procès découvre à nos yeux effarés les dessous fangeux de l'occupation, avec ses services secrets entrecroisés. Tueur de la Gestapo et tueur de la Résistance, espion, mouchard, indicateur et provocateur des deux bords, se côtoyer, se contacter, se duper, se donner des gages, échanger des secrets, trahissaient pour être trahis à leur tour. Voilà, le climat de l'affaire Petiot.
C'est superbe, parce que ça, c'est une leçon. On devrait afficher ça dans toutes les écoles. C'est tellement étranger à tout ce qu'on raconte aux gosses aujourd'hui. Où il y a...
Et là, ça a été publié en 1946, Galtier. Il avait une liberté d'esprit à l'égard de ça, il le disait. Ouais, alors bon, on l'a guillotiné,
N'as-tu pas entendu parler de l'affaire Joinovici? Est-ce que le nom de Joinovici Armonier n'a pas été mêlé à l'affaire Petiot?
Oh, de très loin.
Il y a
un type qui...
Parce que j'ai lu quelque chose là-dessus, c'est pas ça.
Oui, je sais bien, non, mais il y a un type qui...
On l'a dit.
Oui. À dire, Joinovici a des liens avec les gens de la rue de Lauriston.
Lauriston, évidemment. La fameuse carlingue.
Alors, qu'il ait pu en avoir, qu'il ait pu croiser Petiot, c'est possible. Mais,
il n'y a rien de précis.
Lui n'avait pas besoin de sortir du pays.
Je ne pense pas. Bon, que ces gens-là soient retrouvés dans les mêmes clubs de temps en temps, ça c'est très possible. Mais un lien direct, d'ailleurs, entre les affaires de Joinovici et celles de Petiot. Joinovici, c'est pas un fou. Non, c'est pas un tueur qui est traqué. C'est un homme d'affaires. Fabuleux, un retors extraordinaire. Alors, c'est encore un autre personnage. Comme Lafont est un autre personnage. Lafont est un garçon qui le jour de la mort de son père à 12 ans était perdu. Il n'avait plus personne et il a été couché sur la tombe de son père. Et alors quoi, on trouve la carrière de ce type qui se venge de toute la société et qui devient un caïd énorme pendant l'occupation avec le droit de vie ou de mort sur des tas de gens. Et le voilà, là on explique celui-là.
Oui.
Joanneau, il arrive du ghetto de Gutchinov, il a traîné dans le chez les ferrailleurs. C'est toute une autre carrière.
Il est en affaire avec l'armée allemande directement.
Alors le fabuleux, c'est que lui est le un des plus grands fournisseurs pour l'armée allemande en non ferreux. Quant à Petiot, alors Petiot, c'est vraiment un marginal. Heureusement.
Ça s'appelle la norme.
Alors, il y a le procès. Dans le procès, il est formidable parce qu'il est d'une arrogance extraordinaire. Et lui, au fond, je trouve que quand on l'a condamné à mort, il a été pas si mal que ça par rapport à un tas de condamnés à mort qui voient arriver le procureur et qui disent, monsieur le procureur, je suis très content de vous voir, allons-y, etc. Il est le contraire de Landruc. Landruc, gentleman. Le bourreau des Blairs a dit, j'ai jamais rencontrer un client aussi courtois que Landruc.
Ah bah tiens, ça va faire plaisir à des auditeurs.
Voilà, les auditeurs vont demander le remplacement de Beckett par Landruc.
Tandis que Petiot accueille le procureur en disant « Ayez du courage, tu me fais chier », il lui dit. Bon, alors, ça commence comme ça. Et puis alors, Maître Jacquet, qui était là avec Loriot, et il leur dit « Mais fallait pas venir ». Il me dit « Vous vous rendez compte, il fait froid ce matin, puis ça va être dégueulasse que vous allez voir. » Enfin. Et alors là les témoins, et notamment le docteur Paul, on dit qu'il n'avait jamais vu un homme aller à la mort avec une telle indifférence. Il était à la mort comme tu vas chez le coiffeur, comme tu vas chercher ton pain. Et je crois que cet homme était fait de telle façon qu'il avait aucun souci de la vie, ni de celle des autres, ni de la sienne. Et il a été comme ça jusqu'au bout. Voilà.
Merci Alphonse de cette évocation, c'était passionnant. Je rappelle qu'on peut te lire hebdomadairement dans Détective, on peut te lire aussi en librairie. Alors ça, il faut
notamment dans les grands criminels,
l'âge d'or des maisons closes,
avec les grands criminels et puis Éloigner les enfants. Je vais citer le titre du dernier Boudard qu'il vient de réaliser avec Romy, qui est un très très bel album, très très nostalgique, qui s'intitule L'âge d'or des maisons closes.
Mais les maisons closes étaient garantes de la
moralité publique.
C'est un
livre que j'aime beaucoup parce qu'il y a des évocations.
C'est une création de Saint-Louis.
il y a une évocation de la rue d'Amboise où présent à son siège.
Oui, c'est Pierre Sidos qui était un spécialiste.
Il y avait la maison de Toulouse-Lautrec qui habitait là avec des dames et toute la rue d'Amboise était
la rue des Moulins.
Voilà.
Avant d'en terminer, puisqu'on arrive à 7h30, terminer la première partie de l'émission, je voudrais demander, Pierre, toi tu as...
Oui, monsieur, je suis sûr qu'on entend beaucoup d'autres voix.
On vous entend beaucoup. Pierre, toi tu as connu cette époque, est-ce que tu as un souvenir de l'affaire Petiot? Tu étais où à ce moment-là?
Ah, j'étais à Paris, mais je n'ai que le souvenir...
Il avait un alibi.
Tout le monde peut avoir. Non, simplement je lisais les journaux, c'est tout, mais je n'avais aucun rapport avec...
Mais tu n'as aucune relation. Tu aurais pu le suivre, le pauvre, éventuellement.
Ah oui, j'avais beaucoup mieux connu les affaires de l'avant-guerre, dont on parlait tout à l'heure, ça oui.
Un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, nous rappelle cette anecdote merveilleuse. Pendant le procès de Petiot, un spectateur s'est trouvé mal dans la salle. Le président du tribunal a demandé s'il y avait un
médecin dans la salle.
Et Florian a piqué, oui, mon client, monsieur le président.
Oui, alors l'histoire est la suivante. Alors, plus précisément, l'audience commence 14h. Et à 14h10, le président dit « on lève l'audience ». Alors, les avocats, la partie civile, tout le monde se dresse, mais enfin, on vient de commencer. Alors, le président dit « veuillez nous excuser, mon assesseur, monsieur, est souffrant ». Et Floriot, aussi sec, se retourne et dit « mais nous avons un médecin dans la salle ». Ça, c'est une réplique de théâtre.
Une auditrice demande « sait-on ce qui est devenu Madame Petiot ?»
Mais alors, la pauvre Madame Petiot, si je puis dire, c'était une femme assez jolie. J'ai vu des photos d'elle. Elle a, assisté son mari pratiquement jusqu'au bout, puisque il a admis que le prêtre le bénisse, parce qu'il y a un prêtre qui est arrivé, il a dit, voilà, vous avez besoin de mes services. Non, je vous en prie. Mais votre femme m'a demandé, si c'est ma femme, vous pouvez, alors.
Et son fils?
Alors, Madame Petiot, bon, on l'a retrouvée, les France Dimanche ou choses de ce genre, dans les années 51-52. Elle travaillait dans une boulangerie. Parce qu'elle a dû rester dans le collimateur des flics pour cette histoire de frites.
Le trésor.
Et puis alors, il a un fils qui a 62 ans, qui est né en 1928, qui vit toujours, qui a un autre nom et qui ne veut pas se faire connaître, bien sûr.
Je voulais juste dire une chose, telle que vous en avez parlé ce soir, ça fait vraiment penser à Bouvard et Pécuchet, une espèce de tradition française du personnage à la fois ordinaire et extraordinaire, complètement anodin et en même temps complètement mutant en quelque sorte. Je fais penser aussi à Furetière, Laurent Bourgeois, c'est toutes ces espèces de personnages qui croient que la Grande Chartreuse est la femme du Grand Chartreux et qui vivent dans un monde qui devient complètement anodin. Normal à force d'être normal.
Ah, mais il est anormal quand même, lui, totalement. C'est quand même plus près de Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
On l'appelle Dr. Satan.
Oui, alors oui, mais après, lui ont donné tous les noms. Parce qu'au début, quand tu en parles, Pierre, quand j'ai vu la presse de l'époque, elle dit quoi? Elle dit, il y a un assassin dans le genre de Landru qui tuait des femmes. Ça fait rêver, un type qui tuait les femmes. Or, il n'était pas misogyne.
Et puis c'est pas vraiment
et il n'était pas antisémite. Il aurait tué n'importe qui, le petit homme.
ADG qui nous a rejoint, est-ce que ça t'inspire, un personnage comme ça, une réflexion particulière?
Bon, d'abord, je trouve que c'est très littéraire. On trouve on trouve Simonin, hein, on trouve nom de code Valérie. Bon, il y a Massu, évidemment, c'est un petit peu moins littéraire.
Mais
c'est vrai qu'il ressemble énormément à Céline. Il y a un côté inquiétant. Il y a ce côté très célinien.
C'est la même structure du visage. Tu nous disais à propos de Massu. Je l'avais remarqué.
Tu sais qu'à propos de Massu, il y a un truc horrible là du PC. C'est que Massu avait fait de la PJ pendant la. C'est par exemple le modèle de Maigret, Massu. C'était donc un commissaire de la PJ. Il a fait de la PJ pendant l'occupation, c'est tout. Bon. Et puis à la libération, on l'a arrêté. On lui a retiré évidemment l'enquête de Petiot. Il l'a foutu à French. Bon. Et le Parti communiste s'est efforcé de le faire confondre avec un tortionnaire de la Gestapo qui s'appelait Mazui.
Mazui, oui.
Et dans tous les papiers qu'on trouve à l'époque, il crée la confusion à chaque fois.
Ah, ouais.
Alors Massu a été réhabilité au bout de quelques mois et il a repris son boulot.
Il y aurait un travail passionnant à faire sur l'activité du Parti communiste autour de l'affaire Petiot. Tu nous parlais tout à l'heure de Simonin qui a été traqué toute sa vie par
C'est lui qu'il faudrait trouver pour qu'il raconte.
Tu nous dis Massu qu'ils ont tenté de faire passer pour Massu.
Il s'est révélé à Alain Decaux, ce Simonin.
Là, on voit la
puissance. Alain Decaux l'avait mis en cause et il a écrit à Alain Decaux et il a expliqué sa situation. Alors donc, 35 ans après.
Alain, ton avis sur le film, Alain Sanders?
On en a un petit peu parlé avec Alphonse. C'est un très très beau film. Un film d'un expressionnisme, même peut-être d'un surréalisme par moment, mais qui justement, par cet excès, colle on a une impression de réalisme paradoxalement très fort. La seule chose que je regrettais un petit peu, c'est qu'on glisse un peu trop vite sur la partie Parti communiste à la fin. C'est un peu, il se termine un peu trop vite, parce que d'abord on a envie de rester plus longtemps avec ce personnage fascinant.
Le procès, on a envie. Hein,
voilà, et le procès. Voilà ce qui manque. Il y a une deuxième partie peut-être à faire, qui serait le procès, mais c'est un très grand film.
On ne voit pas le procès dans le film.
Non, du tout. Non. On le voit arrêter. Et voilà. Et c'est un très grand film français, et c'est un Michel Serrault, qui est le plus grand acteur français, et peut-être un des plus grands acteurs du siècle.
Ah oui, fantastique.
Et voilà,
à être petit haut.
Alors on peut peut-être s'étonner qu'on ait consacré aussi un temps aussi long, presque une heure à parler d'une affaire qui a 50 ans et d'un film, mais moi je trouve fascinant d'abord d'avoir un témoin, quelqu'un comme Alphonse qui a été présent et qui a étudié ces questions-là.
Pas jusque dans la chaudière.
Mais en plus je trouve que c'est, comme tu le disais en citant le texte de Galtier-Boissière, c'est tellement symbolique d'une époque, c'est tellement représentatif de cette époque glauque, que je crois qu'on n'a pas perdu notre temps en parlant de ça. En tout cas, tu nous as beaucoup passionnés. Je te remercie d'être venu nous voir. Je rappelle que donc on peut te retrouver toutes les semaines dans Détective et que tu publies très prochainement un livre, un très bel album bourré d'illustrations, très amusant. Enfin, il n'y a pas le moindre caractère graveleux.
Oui, c'est léger.
C'est rigolo comme ça. C'est léger. Ça s'appelle
L'âge d'or des maisons
closes. L'âge d'or des maisons closes.
Et puis on réédite la méthode à 1000 avec des dessins de 13.
Ah, ça c'est une très bonne nouvelle.
Oui, on réédite chez le Pré-Auclair.
On va se précipiter.
Voilà.
Merci Alphonse. Messieurs, merci. Nous écoutons un petit peu de musique puisque nous allons recevoir tout à l'heure
Paul Morin, dont j'ai déjà passé le disque. On va écouter ça et puis on reprend l'émission.
Voici un message de Jean Raspail, écrivain.
Chers amis de Radio Courtoisie, savez-vous que grâce à Jean Ferret, voilà que vous représentez aujourd'hui dans ce pays deux éléments essentiels et apparemment contradictoires, une arrière-garde et une avant-garde. On bataille à Radio Courtoisie dans un style très cavalerie légère, on ferraille pour la défense de nos antiques vertus françaises, ça c'est l'arrière-garde. Et en même temps, avec intelligence, ne soyons pas modestes, et aussi avec une très sûre anticipation, on se sert de ces mêmes armes pour éclairer nos compatriotes à travers toutes ces mêlées truquées où la France de demain se cherche sans se trouver. Et ça, c'est l'avant-garde, peut-être même l'avant-garde de l'avant-garde. Mais pour cela, il faut que notre radio vive. Les grosses machines financières, ça a toujours été dans notre camp. La vraie droite, le pays réel, ce que nous sommes, ont toujours manqué cruellement d'argent. C'est à notre honneur, mais tout de même, il y a des limites.
C'était un message de Jean Raspail, écrivain. Soutenez Radio Courtoisie, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou rendez-vous sur radiocourtoisie.net.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite CanalSat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
J'espère que vous passez une très bonne nuit à l'écoute de nos programmes. Vous allez pouvoir suivre dans un instant la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Il s'agit d'une archive de Radio Courtoisie datée du 10 octobre 1990. Excellente nuit à tous. Vous écoutez Radio Courtoisie. Dans quelques secondes, il sera 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, daté du 10 octobre 1990, rediffusé ce dimanche 11 avril 2010, dans la nuit de 2h à 5h. Attention, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonsoir à tous et à toutes pour la deuxième partie de l'émission. Autour de cette table ADG qui nous est restée, Sanders qui va probablement nous revenir, il est allé tousser à l'extérieur je crois, Nicolas Bonal qui est là, Monsieur Cossard que nous allons tout de suite interroger sur les raisons pour lesquelles il est venu nous voir, et puis par la suite de l'émission nous recevrons Paul Morin qui est l'auteur, compositeur et interprète des chansons, de la chanson que vous avez entendue pendant l'interruption du Libre Journal, quoi. Je trouve plus mes mots. Je suis un peu intimidé par le micro, oui. Entre Alain Sanders, ne nous laisse pas seul. C'est ton absence qui me troublait. Alors, de nombreux auditeurs nous font savoir combien ils sont ravis de la présence d'Alain Sanders parmi nous. ADG, j'ai rien.
Bon,
je pense que les gens sont contents. Si, il y a des gens qui ont téléphoné pour dire ADG. Ah bon, d'accord. Bon, bah, alors tu vois, finalement, tout n'est pas perdu. Merci Alphonse Boudard, dit un auditeur qui dit j'ai un grand-père qui s'exprimait librement et j'aimerais bien que mes enfants puissent s'exprimer librement aussi. C'est tout le problème, effectivement. Une auditrice nous dit j'ai l'impression d'écouter Radio Londres. Le brouillage en moins. Tu veux pas faire le brouillage, Alain,
si ça. Madame, ne lâchez pas la proie pour Londres.
Les Français parlent au français. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est un peu ça, Radio
Londres. Il y a de ça, hein.
Une auditrice qui adhère à tout ce que je dis, c'est très bien madame, n'adhérez pas quand même à tout ce que je dis parce qu'il m'arrive de dire parfois, c'est rare, c'est très très rare, mais il m'arrive de dire des bêtises.
Et hier à propos d'adhère, c'était le centenaire du premier vol de l'aviation moderne.
Je vous dis une chose Nicolas, si vous y mettez aussi, je tiendrai pas le coup. Parce qu'avec Sanders, ça fait parfaitement l'affaire, ADG se surajoute là-dessus et s'il y a Bonin, là, c'est fini.
Mais on aime bien les enjeux de mots.
Oui. Bravo, conviction virulente. Virulence compétence, dit une auditrice en parlant de notre émission. C'est exactement ça. Votre colère nous fait du bien. Un chiffre, un auditeur nous dit il y a eu 105 000 morts à la Libération. Chiffre avoué par Adrien Trixier, en novembre. Alors, Adrien Trixier, c'était le modèle et le prédécesseur de Jox. C'était le ministre de l'Intérieur de cette époque. Et alors, une question à laquelle, Alain Sanders, tu vas être obligé de répondre, parce qu'à propos de Petiot, tu as dit, on l'a présenté comme un nazi, or c'était un homme de gauche.
Oui.
Un auditeur dit, mais pourquoi opposez-vous les nazis aux hommes de gauche, alors que les nazis sont des hommes de gauche.
Ce que j'ai voulu dire, c'est que les critiques cinématographiques autour de Petiot, je parle du film, là, qui a été déclenché, quasiment aucun critique n'a évoqué, d'abord, son très important passé d'homme de gauche. Alphonse le rappelait tout à l'heure, il a été élu sur le bloc des gauches, il a été maire socialiste, et ensuite, cette espèce de connivence avec, et plus que ça, cette couverture que lui a assuré le Parti communiste. Alors, ça méritait au moins qu'on en dise quelque chose, et la plupart des critiques en ont parlé comme une espèce d'adjoint de la Gestapo, un petit peu. Voilà, c'est le seul point.
Voilà.
Mais cela dit...
Mais son côté d'homme de gauche qui pratique l'euthanasie n'est pas sans rappeler
les avortements.
Un certain docteur de notre époque qui a fait un bref séjour au gouvernement, d'ailleurs.
Et les avortements. C'était un médecin avorteur, Alphonse nous l'a dit. C'était un euthanasiste. Et il était de gauche, quoi, c'est clair. Il était républicain de gauche.
Ah ben, on a juste son bulletin électoral, là. Élection au Conseil Général, canton de Villeneuve-sur-Yonne. Scrutin du dimanche 18 octobre 31. Docteur Marcel Petiot, candidat républicain de gauche pour la défense des intérêts du canton. On peut voter avec ce bulletin.
Comme s'il y avait des républicains de droite, d'ailleurs, c'est extraordinaire. Si, ça existe peut-être.
Alors, ce dont on ne sait pas, c'est comme on l'a dit, s'il avait été écrit, s'il avait été inscrit à la FIO. Ça, on n'en est pas sûr. Enfin, son appartenance au bloc
de
gauche.
C'était le parti de Guy Mollet.
Oui,
mais oui, le parti d'époque.
De Léon Blum, comme disait Céline.
Monsieur Bonal, tout à l'heure, a prononcé l'expression « la fin du monde ». Alors, vous avez courroucé un de nos auditeurs qui dit que la Bible ne parle que de la fin d'un âge.
Mais c'est la fin d'un monde. C'est bien ça.
Oui, de la fin d'un monde.
C'est sûr. C'est exactement.
Et quel monde ?
Celui-là, ce monde-là peut finir, pour ma part, ça ne me gêne guère. Considérons le jour... considérons comme perdu le jour où nous n'avons pas dansé. Nicolas Bonal, qui a dit ça ?
Je ne sais plus.
C'est pas le curé d'Ars. Enfin, j'ai coincé Bonal. Gaston Bachelard.
Il le sait.
Ah, Maurice Béjart, non.
Je l'ai sur le bout de la langue.
Voilà, Nietzsche. Il l'a retrouvé.
Ah, quand même, c'est dans Ainsi parlé Zarathoustra.
Exactement. Voilà. Alors, considérons comme perdu le jour où nous n'avons pas dansé. Dis donc, ça fait un moment que je perds quelques jours. Nietzsche, Ainsi parlé Zarathoustra. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que...
Il ne parlait pas de la danse comme tu le crois. Hein,
non, mais il dit...
La danse sur le fil.
Dans le même passage, il parle... Il dit que l'homme doit faire la guerre, la femme doit enfanter, et tous les deux doivent constamment danser. C'est dans des vieilles, c'est des nouvelles.
Non, c'est pas facile, parce qu'ici, il faut qu'il enfante en dansant pendant qu'il fait la guerre.
Il dort aussi.
Alors, pourquoi je vous dis ça ?
C'est l'éternel retour.
Vous voulez pas savoir pourquoi
il avait peur du loup ?
Non.
Bon, ben j'arrête. Alors, si vous voulez pas savoir pourquoi je...
Non, on voulait savoir.
Bon, parce que c'est une invitation à aller danser.
Ah,
c'est amusant.
Si ADG vient avec moi...
Mais tout à fait.
Oui.
Une contredanse.
Alors, afin de mettre en application cette maxime du grand philosophe, le Centre culturel Horizon vous convie à un sympathique après-midi dansant. Je vois que quand on reçoit une invitation à danser qui est chapeautée par une maxime de... Non pas de... Mais de Nietzsche, oui...
Ce n'est pas une maxime de Le Forestier.
C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est le nom que je cherchais.
Ce n'est pas une maxime qui chante fort.
Nous nous retrouverons entre jeunes. Donc nous, c'est pas la peine, mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent...
Les jeunes, portez les
vieux jeunes s'abstenir.
Voilà. Nous nous retrouverons entre jeunes le dimanche 21 octobre, entre 15h et 20h. Ça, c'est correct, hein. On croirait les rallyes du 16e. Dans le cadre chaleureux des salles voûtées d'une demeure parisienne du 12e siècle. Il n'y a pas l'arrondissement. Mais c'est dans le 12e siècle. Monsieur Joline Cavouté, disque jockey, feu de bois, boissons à volonté. Diffusez cette invitation et inscrivez-vous rapidement. Le lieu ne sera communiqué qu'aux personnes dûment inscrites. Alors, participation aux frais, 150 francs par personne.
Par tête de pipe.
100 francs pour les étudiants et les chômeurs. Chèque à l'ordre du centre Horizon, 20 rue Boyer-Barret d'ailleurs, carrément, rue Boyer-Barret, 75 014 Paris. Je redonne l'adresse, 20 rue Boyer-Barret, 75 014 Paris. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est que le cercle Horizon, le centre culturel Horizon, mais comme apparemment c'est lié, ah bah oui c'est Eric Cohen qui en est le président, donc c'est lié au cercle Cadoudal et à toutes ces sortes de choses. Voilà, donc ça peut pas être mauvais, hein, Monsieur Sanders?
Non.
Ça peut pas être aussi, ça peut être pas, non.
C'est Kadoubal.
D'ailleurs, entre deux danses, c'est pas le même jour, mais le samedi 10 novembre 90 de 13h à 19h, les écrivains suivants dédicaceront leurs livres.
Oui, mais il n'y a ni ADG ni moi, alors c'est pas...
Ah, c'est pour ça que tu as la gueule.
Vous voyez un petit peu comme ça.
Bah, n'empêche qu'il y a... On ne sait pas que je suis revenu, alors m'invite pas, moi.
Alors, je vais vous dire... Non, mais il y a tout le monde, autrement, sauf nous. Ouais, c'est vrai, on n'y est pas.
Ouais.
Mais alors, il y a tout le monde. Hein. Il y a d'abord, ne serait-ce que pour ça, il faut y aller, il y a Violette Dandré, qui a fait des très belles choses.
Ah oui.
Là, tu ris, tu ne sais même pas qui c'est, Violette Dandré.
Mais non, mais il rentre.
Mais non, mais alors, je vais vous dire, Violette Dandré, c'est un des plus grands écrivains catholiques contemporains. Et alors, quand
et
on dit ça, ADG, en plus, qui est une femme adorable, ADG, qui ne sait rien de rien, il ne sait même pas quand Jésus est né, bon, il ne sait même pas vraiment qui c'est, d'ailleurs.
C'est en loin.
Non, en zéro.
Justement, non, c'était pas en zéro.
Ça y est, on est parti.
Comme c'était loin, tout ça, comme disait Alphonse.
Alors, il dit, il rit, tu vois, pour cacher son... Donc, il y a Violette Dandré, il y a Maurice Bardèche, il y a Marc Blanpin, il y a Gabriel De Breuil, tu vois, de l'Académie française. Il y a Francis Bergeron, qui n'est pas de l'Académie française. Enfin, pas encore.
Académie Berrichon.
Il y a Bernanos, Jean-Loup, ah bon. Jérôme Bonin, il y a A2B de la Tocnay.
C'est
alors,
Alain
de Bougrenet. C'est pas Alain de Bécquet.
Alain de Bougrenet de la Tocnay.
Merci Alain Sanders. Alain Bougrenet de la Tocnay. Je vous conseille d'aller le voir. Lui, c'est pas, je veux dire, vous n'allez pas vous ennuyer longtemps. Yann Bréquilienne, il y a Char, l'admirable dessineuse, de présent.
Et de Rivarol.
Il y a Marc Dem. Tiens, à propos de Marc Dem, je vous conseille la lecture de Iota Unum, suivant une tradition hebdomadaire pour ainsi dire, puisqu'il paraît toutes les semaines. C'est bien ça, il paraît toutes les semaines ou tous les mois, j'ai un trou d'ailleurs. Toutes les semaines. Merci Philippe. Dans le prochain numéro, il a cherché pour faire un papier des informations sur Mitterrand. Alors il a ouvert son Quid et il a vu, il y a une page dans le Quid où il y a des informations sur Mitterrand, le patrimoine du président de la République, enfin des choses aussi intéressantes et aussi vraies que ça. Et puis dans la même page, il y a Giscard. C'est les deux seuls qui sont dans cette page. Et c'est la page 666. Tu sais ce que c'est, 666?
Oui, c'est le signe du diable.
Non, parce que je suis obligé de lui demander. Des fois, il me regarde, il y a une espèce de lueur de détresse dans son beau regard glauque. Alors, donc, je continue. Il y a Marc Dem, il y a... Tiens, il n'y a pas ADG, mais il y a Jacques de Rogy. Alors, disons, on va être entre nous. Il y a Dimitri. Il y a qui encore? Enfin, il y a tout le monde. André Figueras, il y a Jean-Cille de Ventavon, bien sûr. Il y a Éric Vatré, il y a Jean-Marc Varro, il y a Pierre Sergent. C'est incroyable le nombre de... C'est presque aussi bien fréquenté que les journées de Radio Courtoisie.
Et c'est organisé par qui?
C'est organisé par le Centre culturel Horizon.
Ah bon? Ah
oui, donc on vient de parler. Et alors, tous ces gens-là vont danser. C'est le voyageur sans bagade. Bhagavad Gita. D'ailleurs, rendez-vous le samedi 10 novembre 90 de 13h à 19h, Maison de la Chimie. Tiens. Maison de la Chimie.
Ben oui,
on danse la Maison de la Chimie.
Ben, c'est des locaux qui sont loués, tu peux faire ce que tu veux à la Maison de la Chimie, non. Sauf de la chimie d'ailleurs,
sauf très
chimie.
Longtemps. Et donc c'est 28 bis, rue Saint-Dominique. N'allez pas au 28. Ah oui, je sais où c'est, je vois. C'est très bien. C'est là qu'on faisait les réunions légitimistes, bien sûr.
Tiens, à propos de légitimistes.
Oui.
La tenue à Paris, samedi 13 octobre, du premier salon des écrivains amis.
Ah, et ça, c'est
de
bien.
De la légitimité.
Bah, c'est tout ce que vous avez à dire.
Bah non, plus de 50 auteurs présents et 120 titres disponibles.
Est-ce qu'il y a ADG?
Cette manifestation se déroulera dans les salons de France-Amérique, 8-9 avenue Franklin Roosevelt, de 14 et 17 heures. Entrée libre. Violette Dandré.
Alors, vous voyez qu'il y a encore des moments de liberté dans ce pays.
Colonel Antoine Argout, etc., etc., etc. André Figueras.
Pourquoi vous faites cette tête-là en disant André?
Elle fait. Non, c'est parce
André
que
Figueras, puis elle fait.
Je dis. C'est pas ça, c'est la suite. Je me dis, il y en a 6 lignes à lire si je commence.
Bah non, arrêtez. Du moment où vous avez dit André Figueras,
voilà,
ça va.
Voilà.
Parce que moi, j'aime beaucoup André.
Ah, Sanders, j'ai vu aussi.
Ah, tiens.
C'est légitimiste. C'est un ami de la légitimité.
C'est un ami de la légitimité.
C'est bien ça, oui. À propos de légitimité, je vous signale que le catalogue Duc, DUC, Diffusion Université Culture, 45 rue... Est-ce que je peux parler ou...
Non, mais, non. Non, mais Sanders n'y sera pas, puisqu'il sera à Castres avec moi ce week-end.
Mais ne le dis pas. C'est quand, déjà?
Le 13.
Alors, voilà.
Qu'est-ce qui se passe à Castres?
Les 96 000 auditrices fanatiques de Sanders qui allaient se précipiter...
Voilà.
Tac.
Il y a une réunion, il y a un concert, je ne sais pas...
Il y a une réunion.
Il y a une grande réunion à Castres. C'est M. Cossard dont vous entendez la voix et qui va sans tarder nous expliquer pourquoi il est là, je vous le garantis.
Alors, on demande avant à Alain Sander de.
Non, j'étais en train de parler. Il faut quand même pas exagérer, ma petite camarade. C'est Victoria, vous connaissez Victoria? C'est Victoria à l'organe suave et méliflu. Tu sais qu'il a l'organe suave et méliflu, elle a une voix.
Je prends le dictionnaire tout de suite après. Vite,
alors,
vite, vite.
Diffusion Université Culture, 45 rue Rémy Dumoncel, ben je l'en remercie, 75-014 Paris, publie son catalogue. Alors, ils font des choses très très belles chez Duc. C'est des gens très bien. Hein.
Très bien. Mais c'est aussi dans la même.
C'est exactement ça, dans la même. Alors, il y a la médaille miraculeuse, qui est fort belle et valable, parce que vous savez qu'il y a une médaille miraculeuse qui est bidon. Il ne faut pas l'acheter, celle-là. Je vous le dis, vous faites vérifier. Mais ils rient en plus, les gens. C'est pas ADG qui rit, attention. Et ils ont fait une montre magnifique, très belle, quoi. Une montre royaliste, avec une très discrète petite fleur de lys. Alors autrement, il y a plein de choses. Il y a des boutons, il y a des fleurs de lys, sur des boutons de manchette, des boucles d'oreilles, des tas de choses jolies. Avec du goût. Il y a des foulards, des pinces à foulards, des mouchoirs de Cholet. Qui veut nous chanter le petit mouchoir de Cholet?
ADG ne. Tu sais ce qu'a fait ADG un jour?
Non.
Ce qu'a fait ADG un jour. En arrivant à Cholet, il a demandé absolument à aller dans une pharmacie. Alors tout le monde, mais pourquoi? Je vais acheter une boîte de Kleenex. Mais pourquoi une boîte de Kleenex? Parce qu'on a toujours parlé des Kleenex de Cholet.
C'est drôle. Voilà. Il y a de l'humour, bien sûr.
Voilà.
Il y a des très belles cravates. Il y a des lavalières. Vous savez que la lavalière revient à la mode.
Oui, bien sûr. Elle...
Il y a des posters rieurs même. C'est amusant, non?
Oui.
Bon, c'est nouveau. Et il y a un très bel arbre généalogique qui est démonstratif, sans à l'exclusion de toute autre considération, les Capétiens de 987 à nos jours. Je peux vous dire que ça commence par qui?
Les Capétiens.
Voilà, bravo, par Capet en personne. Et ça finit par
Chilpéric.
Non, il a rien compris. C'est brisant. Ça finit par Loulou.
Oui, Louis-Napoléon voilà. Bonaparte.
Oh là 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 là, c'est pas possible. Et elle était... Alors, il faut que je vous dise, elle était institutrice. Alors après, on voit arriver les gamins du... c'est lycée Papillon, tu vois. On se dit, mais c'est pas croyable. Comment ils ont fait c'est... Alors, bien sûr, t'as une institutrice qui dit, la dynastie capétienne, elle a commencé avec Hugues Capet, elle a fini avec Louis-Napoléon Bonaparte. Sortez. C'est la boutique des fous du roi, le duc. Voilà.
Ce qui n'est pas complètement bête.
Mais, oh, merci, quand même. Heureusement, enfin, quelqu'un qui me reconnaît.
Par le jeu d'alliance.
Alors, ça a fini avec le maréchal Pétain, à ce moment-là.
Par le jeu d'alliance.
Non.
Non, par le jeu d'alliance de Napoléon et son second mariage.
Le jeu d'alliance de Napoléon, c'est comme ça que tu appelles ça.
Oui.
Ah oui, parce qu'il avait épousé
Marie-Louise.
Marie-Louise.
Et donc, il était allié à Louis XVI, à Nco.
Ah ouais, c'est vrai. C'est de la...
Il
était
voilà.
De la famille.
Et voilà.
Bon, alors la boutique des fous du roi, le duc, dont je vous parlais ci-dessus, vous propose, c'est pas de la publicité, c'est parce que c'est des amanches. Mmh. Moi, les amanches, je les défends. Une ligne de bijoux exclusive, des prix très étudiés, un point de vente et d'exposition à Paris, vente par correspondance, service de création, tout ça. Donc, si vous aimez le roi, le vrai, vous allez 45 rue Rémy Dumoncel et vous êtes en famille. Pour tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de France et son aspect culturel, artistique et symbolique, un petit détour par la boutique Duc s'impose. Je serais très mauvais en pub. Je suis encore plus mauvais en pub qu'en
informatique. Et alors, je vais autant vous dire que c'est tout de suite pan sur le Bekech. Quand vous donnez des informations, dit cet auditeur, des annonces, faites-le avec plus de sérieux. On ne peut rien noter.
Bon, alors je recommence tout.
Votre secrétaire... Ah non, pitié, pousse, leur tourne. Votre secrétaire me conseille, leur conseille d'appeler Minute.
Ah ben voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas tout compris, vous demandez à Françoise. Elle a tellement l'habitude qu'elle comprend tout ce que je dis et elle garde les adresses en mémoire et tout. Elle est formidable. Le syndicat national des radiesthésistes, c'est pas rien le syndicat national des radiesthésistes, se permet de nous annexer le programme de son prochain congrès qui aura lieu les 17 et 18 novembre 90 à l'hôtel Hilton, 18 avenue de Suffren.
Sous le titre de C'est pas sorcier.
Oui. C'est pas sorcier.
C'est ceux qui ont fait la radio de la Méduse. Qui
ouais, voilà. Le syndicat national des radiesthésistes, créé en 1954, immatriculé au ministère du Travail sous le numéro 11692, hein, ça alors là, qui a pour emblème loyauté, c'est très bien, se charge de guider et de former toute personne souhaitant pratiquer cette discipline. Je vous remercie par avance de l'accueil que vous viendrez bien réserver à cette lettre. Alors, donc, congrès de la radiesthésie, 17 et 18 novembre 90, ouvert au public. Le premier qui dit que la radiesthésie c'est une bêtise, j'aurais à lui répondre, parce que, étant moi-même assez brillant en radiesthésie, j'arrive à trouver les conduites d'eau sous le sol de ma maison.
Je vous le dis. Même dans ta salle de bain.
Et même dans ma salle de bain. Non, mais c'est vrai, en plus. Alors, pour le public, le docteur Sana, homéopathe, acupuncteur, tout ce que j'aime. L'inquiétante progression de l'allergie dans la société. Ça, c'est vrai, je suis une allergie terrible en ce moment. Patrice de Bonneval, docteur en pharmacie. L'herboristerie en l'an 2000. Dédicacera son livre, Manuel pratique de l'herboristerie. Qu'est-ce qu'il y a? Odette Pactat, alors, Odette Pactat Didier, écrivain numérologue, la signification des contes de fées. Ça, c'est après le déjeuner, le premier jour, ça doit être passionnant. Le docteur Anne Simon, acupuncteur, vous parlera de la radiesthésie et du diagnostic énergétique en médecine traditionnelle chinoise. Si ça fait pas de bien, c'est un peu pour faire de mal. Le docteur Paco, oligo-éléments et vitamines microdosées en nutrithérapie. Là, c'est vers la fin de l'après-midi, c'est le moment où on a le droit, si on veut, on peut dormir 5 minutes quand
même. C'est yod-toi de là que je m'y mette.
Yod-toi de là que je m'y mette, oui. Ensuite, un forum débat. Avec des tas de gens. Et le lendemain, ouverture des portes. Donc déjà, on n'est pas obligé de passer à travers les murs. Monica Bernaudot, diplômée en odontostomatologie. Prise de conscience des énergies minérales et de la couleur. C'est quand t'as très mal aux dents, tu vois, t'as des éclairs rouges dans les yeux.
Ah ben c'est ça. De bois, ça.
Oui, c'est ça aussi. Michel Grenier, membre professionnel du SNR, radiesthésie, utilisation des centres d'énergie vitale. Docteur Bourdin, de l'homme rationnel à l'homme conscient. Alors ça, on n'est pas du tout concerné. Maggie Lebrun, médecin du ciel, médecin de la terre. C'est une magnétiseuse. Et à 19h, fin du congrès. Donc si vous arrivez à 19h, à 18h45, c'est pas la peine. Parce que l'entrée est quand même à 100 francs par demi-journée. Non. Mais ça, c'est intéressant. Voilà, moi ce qui m'intéresserait surtout, c'est signification des contes de fées par Odette Pactat Didier. À 14h30, le samedi 17 novembre 90. Je vous signale l'émergence d'une nouvelle association qui s'appelle Jeune Chrétienté. On va en recevoir les animateurs prochainement. C'est 46 boulevard Saint-Michel, 75 006, téléphone 46 33 98 73. Alors, ils organisaient samedi et dimanche à Givry les journées de Jeune Chrétienté. Je vous le dis, puis c'était quand même intéressant à savoir, puisque ça vous permet de savoir ce que vous avez manqué le week-end dernier. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Alors maintenant,
auditeur.
Non, on va dire encore quelque chose.
Une seconde. Un auditeur demandait à Alain Sander de parler de sa confrontation avec Émile Nallet. Ah. Écourté et on avance.
Oui. Alors bon, comme vous le savez, ce genre de confrontations il faut accepter de jouer le jeu. Elles sont enregistrées à l'avance. On a enregistré à peu près 18 minutes. D'émission et il n'en est resté que 8. Donc à partir du montage on peut faire beaucoup de choses. Je crois que quand même il y a plusieurs choses qui ont pu passer, mais le problème à la fin c'est que je terminais sur une fabuleuse flèche du Part, mais que certainement les gens qui avaient monté cette émission et qui l'avaient déjà retardée d'une semaine pour pas la faire passer le samedi du Yom Kippour, ont trouvé que je terminais peut-être un peu trop fort sur Émile Nallet. C'est lui qui a terminé, comme toujours, quand on veut en faire trop, ça se voit et ça s'est vu énormément, puisque l'émission se termine sur un air de musique qui n'a rien à voir ni avec ce qu'on a dit avant, ni sur l'émission qui suivra après. Alors voilà, mais enfin le principe était intéressant, ça a été
C'est pour ça que j'avais refusé de participer à cette émission.
Ça a été animé, mais courtois, voilà.
Je trouve que le système qui consiste à enregistrer les débats et à les monter ensuite est une escroquerie. C'est ce que j'ai dit à la jeune personne qui voulait m'inviter à ce débat. Elle voulait m'opposer à Benhamou, ce que j'ai refusé catégoriquement. Je n'ai rien à dire à ce monsieur qui me traite de franchouillard. Moi je le traite pas comme ça, donc je vois pas pourquoi je lui adresse la parole.
Tu peux pas le traiter de franchouillard.
Non, mais je mets pour dire autre chose. Je ne dis rien.
Puisqu'il refuse cette appellation.
Mais bien sûr, c'est lui-même qui la refuse, qui la récuse. Mais en plus, la raison pour laquelle j'avais refusé, c'est que elle me dit, vous comprenez, c'est une émission enregistrée et montée. Je lui dis, mais madame, avec tout le respect que je vous dois, vous me prenez pour un pélican.
On te le dit, ça sera un montage. Bon.
Oui, mais enfin, si on me dit venez dîner, ça sera empoisonné, je dis écoutez, merci pour l'invitation, je suis retenu ce soir-là.
Cela dit, je voudrais dire quand même que Thierry Ardisson, c'était sa seconde émission, et qu'il a au moins ce courage d'avoir invité, et à la première, dans la partie qui concerne Mourouzi, quand même quelqu'un qui nous est cher, qui était Jean-Marie Le Pen, et dans la seconde, quelqu'un qui m'est assez cher aussi, personnellement, parce que je m'entends assez bien avec lui, c'était moi. Voilà.
Ah oui, tu... bon, ça va, tu... il a complètement bon, Quand Napoléon a épousé Marie-Louise, la franc-maçonnerie, nous dit un auditeur, a changé de camp et l'a laissé tomber. Où peut-on trouver la chanson des Camelots du Roi? Alors, qu'est-ce que la chanson du Camelot du Roi? C'est, je vous donne les paroles, les Schtroumpfs ayant tout pris,
tout raflé
dans Paris, dites à la France,
tu n'appartiens qu'à nous, obéissance, tout le monde à genoux. Non, non, la France rouge et le voie rouge, non, non, assez de trahison.
Voilà, c'est ça, cette chanson... Je sais pas ce que l'auteur de cette chanson avait contre les Schtroumpfs, qui sont adorables, les hommes bleus, mais visiblement, il y a eu un problème. Eh bien, je ne sais pas où on peut la trouver, c'est ma réponse. On peut en trouver le texte, d'ailleurs...
On peut pas en trouver.
Non, on peut même pas en trouver le texte.
On peut téléphoner à Minute.
Non, non, c'est pas... Alors là, je vous dis carrément, c'est même pas la peine de téléphoner à Minute, je n'ai pas le texte. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu cette chanson, je ne la connais pas personnellement.
Donc tu aurais beaucoup de mal à la chanter, donc,
si on me le demandait, je serais bien incapable de la chanter. Alors là, c'est comme si on me demandait de chanter, oui. Je sais pas moi, oui, Rue Lauriston, on aime bien Monsieur Lafont. Robert Lafont, oui. Je sais pas, je connais pas ça.
D'autant que c'est Place Saint-Sulpice, ces éditions.
Oui, en plus, donc c'est même pas la bonne adresse. Merci d'avoir parlé de la façon dont on été traité. C'est très difficile à dire ça, les jeunes de Fontainebleau, merci de dire la vérité. Mais je vous dis, madame, c'est facile de faire original en disant la vérité, étant donné que tous les autres mentent, sauf moi.
Ou cache, ou camoufle.
Ou cache. Le centre culturel Horizon, c'est le nouveau nom du cercle Cadoudal, nous dit Eric Rehn qui nous écoute. Et je l'en remercie. Ça prouve qu'au moins il a de bonnes émissions à écouter. Le numéro de téléphone de l'association où l'on peut obtenir tous les renseignements, c'est le... Alors je vous le donne, notez. Vous avez un crayon? Notez. Le 45 42 10 92. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire 90, vous téléphonez.
Une minute, toujours.
Ben non, à ce numéro-là. le 25 octobre, à l'Amphi Faco. À l'Amphi Faco, à 19h30, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, métro Port-Royal. C'est beau, tout ça, ça, hein. C'est les jansénistes à l'Amphi Faco.
Faco, c'est très bien, c'est la fac libre.
Eh ben oui, je dis, c'est bien. J'aurais bien voulu quand même que le janséniste revinsse.
Oui.
Pour qu'il nous parle un peu, nous dise un
pour
peu
ce qu'il parlasse.
Non, Philippe, ça lui plaît pas. Pour qu'il nous parlasse de ce qu'il pense des charismatuches. Hein? Ça aurait été rigolo d'organiser un débat entre un charismatuche et un janséniste.
Ça aurait fait assez provincial.
Ouais. Bon. Conférence de Jean-François. Alors, je dis charismatuche parce qu'on a... Tu sais qu'au Front National, il y a pas mal de charismatiques.
Pareil. Bon, pareil, j'ai même été invité, moi, à ce... ouais. Comment ils appellent ça? FX, Saint-François-Xavier, là.
Oui.
Ils font un truc tous les mercredis, et dans un article de présent, j'avais été un peu caricatural, sans doute, et ils m'ont invité à y aller. Mais je sais pas parler en langue.
Je connais quelqu'un qui est allé avec une petite voiture, et est sorti, il avait des pneus neufs.
C'était le... Ouais, peut-être que j'irai.
Le père, comment il s'appelle, Tardif, qui avait organisé ça. Ouais.
C'est bien. Mais j'irai peut-être... Je crois que c'est un mercredi, sur Inix, tous les mercredis.
Voilà, donc je disais que ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire. Le Centre Charlier organise le 25 octobre à l'Amphi Faco, à 19h30, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, métro Port-Royal, une conférence de Jean-François Lambert, que nous avons reçue à ce micro plusieurs fois.
Et là, c'est passionnant.
Ancien président d'Amnesty International, sujet « La foi est-elle pour les imbéciles ?» Ah ben ça, c'est une bonne question, alors. Alors, attendez. « La science est-elle pour les imbéciles ?» Science et révélation chrétienne. Alors, une main que je reconnais qui serait... Non, c'est pas Philippe qui a écrit ça dessous.
Une main cachée.
Qui a souligné les imbéciles et a ajouté une main cachée. Ajouté, ils ne viendront pas ce soir. Donc, tous nos auditeurs peuvent aller le 25 octobre à 19h30, 115 rue Notre-Dame-des-Champs. Ils risquent pas de rencontrer d'imbéciles. Et je vais vous dire, en ce moment, à Paris, quand on a une adresse où on est sûr de pas rencontrer d'imbéciles, il faut surtout pas la manquer.
Tu sais, c'était un petit peu la pub de l'œuvre avant-guerre.
Oui. Oui,
les imbéciles ne lisent pas l'œuvre. Et alors, sur les affichettes, les gens rajouter à la main, non, ils écrivent dedans.
Et alors, je vous parlais de Jeune Chrétienté, qui organise le 25 octobre une conférence. On s'ennuie pas, hein. Qu'est-ce qu'on est acculturé. C'est-à-dire le même jour. Jeune Chrétienté organise le jeudi 25 octobre une conférence, l'œuvre des sœurs maronites dans la tourmente libanaise, par Mère Pauline Fares, supérieure de la congrégation maronite des sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, moi, j'aime beaucoup Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Moi, j'aime beaucoup Maronite.
Il faut aller à Notre-Dame des Victoires pour la rencontrer.
Il y aura également Manet Tessel.
Non. Fares, non. 18 rue du Parc de Clagny à Versailles. Rendez-vous à 20.
Du feu.
à 20h15. Est-ce que je peux terminer au lieu de vous entendre dire des bêtises? Les sœurs comptent sur la générosité de tous pour les aider à rebâtir leurs hôpitaux et leurs écoles. La moitié a été détruite par la guerre, ainsi que leurs noviciats. De nombreuses vocations ne cessent d'affluer et les maires peuvent difficilement les accueillir faute de logement. Ben, elles pourraient nous en envoyer en France parce que nous...
Mais il faudrait déjà un petit peu que les chrétiens cessent de se tirer dessus. Ça éviterait déjà pas mal de trucs.
Merci de venir l'écouter. Si vous en êtes empêché, vous pouvez les aider en adressant vos dons à l'ordre de Jeunes Chrétiens Orient. Jeunes Chrétiens 46 boulevard Saint-Michel, 75 005, Paris. Alors, on peut pas dire que je suis sectaire, hein, parce que j'annonce le même soir une réunion du Centre Charlier que je suis membre de, et une réunion de Jeunes Chrétiens que je suis même pas membre de. Voilà. Je crois qu'on a fait toutes les annonces. Non, non, il y a une annonce que j'ai même pas faite. Incroyable. Vous savez que le 7 novembre, c'est la fête de Radio
Courtoisie.
Voilà, merci, bah, vous êtes vif. Hein.
C'est le jour de la révolution russe aussi. Hein.
Oui, bah, justement, il fallait réparer.
Ouais.
Donc on a choisi ça pour en rite propitiatoire. Voilà, c'était difficile. Donc, dîner 7 novembre, c'est le troisième anniversaire de Radio Courtoisie. Ce qui est encore plus important que tout, c'est que c'est un mercredi et que, par conséquent, c'est votre serviteur qui est moi,
direct,
le
dîner.
Ça va être formidable. Avec tous mes amis, toute la bande, il y aura Alain Sanders qui viendra, j'espère.
Bien sûr.
Avec Nat.
Oui.
Voilà. Il y aura ADG qui viendra.
Tout seul.
Merci. Oui, parce que, enfin, il y aura tout le monde. Et il y aura même Nicolas Bonal qui exceptionnellement acceptera de rester debout après le coucher du soleil. Après. Vous êtes un nocturne, vous, Nicolas.
Ouais, ouais,
ça se sent un peu.
Après le coucher du sommeil.
Après le coucher du sommeil. Donc, ça sera formidable. Je vous signale que ça se passera à la surprise générale à la mutualité à 20h30, début du dîner. Que le couvert sera, le prix du couvert se monte à 220 francs, sauf si vous avez eu la bonne idée d'adhérer
à notre association.
Notre association, Radio Courtoisie, car dans ce cas-là, vous réalisez une économie substantielle de 30 francs.
Et vous ne payez pas.
Bon, il rigole que ça, il est gonflé, c'est substantiel 30 francs. Bon.
20 francs.
Hein?
30.
Non, parce que vous ne payez que 190 francs.
Ah, bon.
Si vous êtes adhérent, 220 francs pour les non-adhérents. Mais en plus, alors je dois vous dire une chose, les serveurs ont des instructions extrêmement précises et ils renversent la sauce sur les non-adhérents.
Ah, bon.
Ah oui, on leur a dit. Si on va donner aux gens un petit badge, il y aura marqué j'adhère et l'autre j'adhère pas. On va essayer de se faire subventionner par la colle, la célèbre colle adhère, ça adhère, ou s'adhère, ça adhère.
Et puis avec la colle, et puis la sauce aussi.
Et voilà. Et alors on va dire au serveur, les gens qui ont un badge, on va prendre comme couleur, je prends n'importe quoi, jaune, tiens. Un badge jaune, vous avez le droit de renverser, ou vert, jaune c'est bien, vous avez le droit de renverser la sauce sur eux. Ceux qui ont le badge blanc, j'adhère, blanc, seront épargnés. Donc vous avez avantage à adhérer, vous envoyez un chèque de 200 francs pour l'adhésion minimum.
Et vous économisez 30 francs.
Et vous envoyez un autre chèque de 190 francs, puisque dès lors vous êtes adhérent. Ce qui vous fait une économie substantielle de 30 francs, moyennant le paiement de 390 francs. Au lieu que si vous n'êtes pas adhérent, vous envoyez seulement 220 francs.
Oui, mais l'année d'après...
L'année d'après, il faut recommencer.
Oui, mais après, vous vous sentirez coupable si vous nous écoutez.
Est-ce que j'ai été assez clair?
Oui, moi j'ai...
Tu as compris, Alain?
Tu n'as pas pensé à faire de la pub un peu?
Oui.
Travailler dans ces trucs.
ADG a compris, donc on est tranquille, aucun problème.
Tout le monde a compris.
Alors, donc, dîner 7 novembre, troisième anniversaire de Radio Courtoisie, en la présence de l'équipe du mercredi soir, à 20h30, à la mutualité, 220 francs le couvert pour les non-adhérents qui ne devraient même pas savoir qu'il y a de dîner parce que les non-adhérents n'ont pas le droit d'écouter. Monsieur, je vous vois, là, vous écoutez.
Non, parce que Philippe, il veillera.
Et 190 francs pour les adhérents. Alors, ce qu'il faut faire, c'est réserver. Mais réservez vraiment, parce que tous les ans, il y a 160 personnes qui ne peuvent pas rentrer. Il y a des syncopes à l'entrée. Les gens, la première année, les dames qui étaient venues pour voir Jean Ferré, il y a eu des syncopes dans l'entrée.
Ah bon?
Oui. Elles ont essayé de s'accrocher, se battaient. Ouais. Oh, bah, Patrick Bruel, c'est rien. Et donc, on a été obligé de faire venir le SAMU. Enfin, c'était dramatique. Tout ça parce qu'elles n'avaient pas eu l'idée de réserver d'avance.
Hein? Donc réserver
en retard, ça sert absolument à rien.
Alors qu'il y a un devoir de réserve.
Voilà, il vaut mieux réserver. Donc respectez votre devoir de réserve. Réservez très à l'avance même, puisqu'on est le 7 octobre. Le 7 novembre, donc c'est dans pratiquement un tout petit mois. Donc vous pouvez là écrire votre chèque tout de suite. Vous envoyez un chèque correspondant au nombre des invités, et vous joignez une enveloppe timbrée à votre adresse.
Tiens, en parlant de chèque, il y a une dame là qui me demande que devient le chèque, je le prononce comme ça, on doit dire le chir. Je le sais quand il y a des
chir Mojibur Rahman.
Le chir Ibrahim Dogan, dont je parlais toutes les semaines en présence, c'est celui qui psalmodie le matin. Une sourate ou deux,
voire deux,
ou quelques versets du Coran. Et alors, effectivement, étant donné que je ne présente plus les programmes dans présent, mais que je me suis consacré seulement au film pour être encore plus
gambe,
eh bien, je ne sais pas s'il continue de passer. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que depuis la semaine dernière, on sait que les émissions islamiques du matin ont doublé, c'est-à-dire qu'elles ont double de temps maintenant. Voilà. C'est l'évolution. Mmh.
Bah c'est normal, ils sont deux fois plus nombreux que quand ils étaient moitié moins nombreux. Alors, du coup, vous voulez tout de suite les annonces, Philippe. Bon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Voilà, tenez, je vous donne tout ça. Non, parce que vous pouvez pas imaginer ce qui se passe dans le studio. Comme on n'a pas la télévision, c'est... Votre invité, ce... J'ai pas lu. Alors, Hervé Cossard, vous êtes président, si je ne me trompe pas, de l'Association pour le rapprochement des familles de la communauté européenne. Et vous m'avez envoyé une gentille lettre en me demandant si vous pouviez venir présenter votre association à cette émission. J'ai accepté non moins gentiment d'ailleurs. Alors je voudrais savoir ce que c'est que cette Association pour le rapprochement des familles de la communauté européenne. J'espère que c'est parfaitement... C'est bien quoi, il n'y a pas de...
Oui, c'est pas les familles tuées de poil.
Là, il est plus de 8 heures, ça va en général. Les auditeurs, à cette heure-ci, ils regardent plutôt les journaux télévisés.
Mais alors, d'abord, bonsoir aux auditeurs. Je m'en excuse, je suis enrhumé, donc j'ai peut-être le nez qui pince, je tousse.
Le premier qui dit l'après-midi d'un aphone, il prend une claque.
Monsieur, vous êtes pas venu. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui est important, c'est que les auditeurs, effectivement, ne peuvent pas se douter cette espèce d'ambiance qu'il y a dans le studio. Je suis là depuis une heure, donc à aller voir gesticuler, enfin se défouler. Mais c'est d'abord un spectacle extraordinaire, et ce qui est dommage, c'est que le studio soit pas grand pour que tout le monde puisse venir. Alors ça, c'est une première chose. Bah oui, j'en suis le président de cette association qui a trois buts. Le premier, c'est quand même de faire découvrir un continent que peu de gens connaissent, qui est l'Europe, où on connaît par les manuels, mais enfin, tout le monde sait ce qu'on en dit dans les manuels. Le deuxième, bah, c'est quand même d'aider des familles humbles qui deviennent de plus en plus majoritaires dans notre pays et aussi dans la communauté européenne, donc à se rencontrer. Et le troisième, et je crois que c'est la tare de notre pays, c'est le manque de culture et surtout le manque de langue. On sait que les Français ne parlent pas de langue étrangère et c'est un problème qui était déjà important et qui va devenir crucial justement avec cette Europe qui est en train de se faire. Et on va se battre un petit peu, n'est-ce pas, pour que les gens qui n'ont pas la possibilité, pour des raisons souvent financières ou culturelles, de rencontrer d'autres personnes, bah, justement puissent le faire par le biais de notre association.
Alors, l'Europe, on en parle énormément sous l'aspect économique. Enfin, en ce moment, on parle que de ça. On parle de la rentrée de Madame Thatcher dans le serpent, ce que je trouve une image absolument délicieuse.
J'ai lu tous les livres.
Donc, on ne parle. L'Europe, ça n'est qu'une espèce de machine économique, ce qui la rend d'ailleurs profondément antipathique. Si elle est incarnée par les gnomes de Bruxelles et les petits fonctionnaires grisâtres de Strasbourg, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors vous essayez de lui donner un aspect moins rébarbatif, moins gris.
Pas plus humain, moins gris certainement, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est que, bon, il faut savoir qu'on va être 270-280 millions d'habitants, donc dans 2 ans, sur la communauté européenne. Et il est clair que ce qui faisait un petit peu la richesse, alors ça va être un discours socialiste que je vais dire, je m'en excuse.
Oh bah alors vous pouvez y aller à ce micro, c'est pas l'habitude, hein, donc ça va surprendre.
Alors ce que je veux dire, c'est que ce qui a fait un peu la richesse de l'Europe justement, c'est que au sein de cette communauté européenne, que ce soit les Italiens, les Allemands, les Hollandais, les Anglais, les Français, on est des cultures complètement différentes. Et par décret, des hommes politiques ont d'un seul coup décidé, maintenant on va devrait être un même peuple. Un petit peu ce que fait Mitterrand avec un autre continent sur la France, c'est-à-dire de dire, oh, puis les blancs, les noirs, c'est pas bon, les blancs, les arabes, c'est pas bon, on va faire une seule couleur. Puis pourquoi pas une seule religion? Puis tous ceux qui n'ont pas la bonne taille, je sais ce que je parle, hein, et puis, et ben ceux-là, on va les dissoudre. Hein,
encore que les petits sont avantagés dans ce programme, parce que c'est plus facile, comme nous l'ont démontré brillamment nos amis Hutu, de raccourcir un grand que d'allonger un petit. Donc finalement, ADG a des chances de survivre.
ADG, tu sais,
moyen.
Tout s'y rentrer.
Je
suis pas un nain, quand même.
Ah non, qui a dit ça? Tu as dit ça, toi, là?
Moi, j'ai dit qu'il faisait souvent des pieds et des nains pour être drôle.
Ah oui, mais il a réussi
assez. En plus, vous avez affaire à un ingrat.
Bon, merci. Bon, alors, donc, pardonnez-moi.
On est trois autour de cette table, enfin, pour ça.
Pardonnez-moi, Hervé Cossa, je voudrais pas vous taquiner, mais... je vous ai coupé la parole pour dire des bêtises, mais après tout. Alors donc, redonner ou donner une espèce de quand même d'humanité à cette Europe. Mais est-ce que vous entendez limiter votre activité à l'Europe des 12? Ou est-ce que vous croyez pas qu'il serait très intéressant d'aller plus loin, d'aller jusqu'à l'Oural, par exemple, comme disait l'autre?
Bon, écoutez, l'Oural, c'est peut-être dans l'avenir. Là, en 1990, dans l'immédiat, on est une douzaine de pays européens signé des accords et être dans la communauté européenne. Alors, gérons, j'allais dire, année par année, les problèmes et n'allons pas faire de la fiction de savoir est-ce que dans 2 ans ou voire dans 4 ans, la Turquie, puis la Pologne, la Roumanie sera à ce moment-là des pays...
Le Rwanda. Membres. C'est pas précisément la Turquie que je pensais.
Oui, non, mais j'avais compris, mais c'est un moyen de dire, bon... la Turquie, puis il y a la Bulgarie aussi, c'est pas tellement mieux, je veux dire, bon, si vous avez été en Bulgarie, vous avez l'occasion de voir. Quant à la Roumanie, j'en parle pas.
C'est le sacré bougre.
N'est-ce pas? Alors, moi je pense que, bon, le gros dossier de cette année, quand même, c'est la réunification allemande, et nous, on a été très débordés, j'espère qu'on en reviendra dessus sur ce qui s'est passé, parce que nous avions une section importante en Allemagne, et j'allais dire presque du jour au lendemain, tout le monde a été un petit peu étonné, enfin tous nos hommes politiques ont été étonnés, parce que ceux qui étaient un petit peu plus sur le terrain et qui voyaient un petit peu ce qui se passait depuis un certain nombre d'années, ils devaient bien se douter que ça allait imploser au sein de l'Allemagne de l'Est. Et donc évidemment tous les stratèges, enfin les intellectuels, les gens qui sont formés pour prévoir l'avenir ont pris, j'allais dire, un coup de maillet sur la vie et la faucille de l'autre. C'est ça. Et donc dans l'immédiat, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au niveau des 12 pays de la communauté européenne, que chaque famille française, dont dans les cités, alors c'est toujours un petit peu un petit discours un petit peu bêta ce que je veux dire, mais ça peut peut-être aider beaucoup de gens.
On parle avec le cœur, on a souvent l'air bêta, mais il faut quand même parler avec le cœur.
C'est mieux de parler du cœur que de parler du nez. Il y en a beaucoup qui parlent du cœur quand on parle du nez.
Alors donc je continue. Il y a dans les cités des jeunes gens et des jeunes filles qui sont mineurs et qui eux ne partent pas en vacances. Et notre souhait justement, c'est pour éviter qu'ils soient récupérés par ces socialistes bon teint, n'est-ce pas, que nous on puisse leur dire, bah voilà, on a une possibilité.
Si c'est des Français, ils n'ont aucune chance d'être récupérés par les socialistes de toute manière.
C'est pas là mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne regarde pas de quelle nationalité on est ou on n'est pas. À partir du moment, moi je pense que on aime notre drapeau, il n'y a pas de couleur en France. Il y a le bleu, il y a le blanc, il y a le rouge. Le reste, on s'en met leur contre-fou, n'est-ce pas?
Un drapeau, trois couleurs.
Voilà, trois couleurs. Une quatrième, maintenant on va voir le bleu avec les étoiles. Moi je suis européen convaincu, tout en étant, alors encore plus convaincu d'être français, mais je crois que notre avenir, c'est que, parce que comme nous sommes quand même un petit peuple, même si beaucoup essayent de nous diviser, je crois qu'on a quand même un avenir important dans l'Europe.
Alors, quelle va être votre activité? Bon, parce que le rapprochement des familles, ça se passe comment? Vous allez mettre en contact des familles des différents pays européens?
Alors voilà, donc on va parler quand même de notre expérience. On a donc des fichiers dans différents pays, sauf la Grèce malheureusement, car le gouvernement grec, par le biais de l'ambassade, a toujours tatillonner un petit peu pour qu'on puisse réellement faire de la publicité et donc avoir une activité sur Athènes. Alors bon, ceci dit, dans les autres pays, on est arrivé à avoir un petit fichier qui se sont petits dans le sud, parce que vous savez, il y a quand même une immigration. Je pense que vos auditeurs doivent être au courant qu'en France, il y a une petite immigration, toute petite. Hein. Et
ils ont dû s'en apercevoir.
Quand ils prennent le métro, oui. Enfin, moi, je prends le métro régulièrement, je m'en suis aperçu. Mais enfin, bon. Et c'est vrai qu'il y a quand même en France des gens qui sont espagnols, portugais, italiens, qui sont européens et qui vivent sur notre territoire. Si vous voulez, il y a moins de demandes que pour des Allemands, des Hollandais, des Belges ou des Anglais. Donc nos grandes sections donc sont dans le nord de l'Europe. J'espère qu'un jour dans le sud ça se développera, mais dans l'immédiat bon c'est très restreint. Et en fonction donc des conditions familiales des gens, donc on a un petit une lettre que l'on fait remplir en fonction du travail que font les parents, de leurs conditions sociales, économiques, culturelles, de leur goût, de la grandeur de la famille, tout ça. On arrive à essayer de trouver une famille identique à la leur dans le pays de leur choix. Voilà. Mmh. Et ensuite, on les met en contact par des courriers. Donc, si on peut traduire, on joue le rôle d'interprète.
Ah oui.
Et certainement, parce que vous savez, c'est le principe de l'étincelle. Une fois qu'il y a, un rapprochement, une fois qu'il y a un contact, vous savez, c'est ça. Hein. Et ben après, il y a l'envie de se connaître, l'envie de se rencontrer, et le fait d'être européen, le fait en plus d'avoir les mêmes goûts et souvent les mêmes problèmes, parce que il faut pas se leurrer. Hein. Un pêcheur de Saint-Malo ou un pêcheur du fin fond d'Islande ou de l'Irlande, ils ont les mêmes problèmes.
Surtout voilà. Ceux d'Irlande et ceux de Bretagne.
Voilà, tout à fait.
Alors, je trouve que c'est un bon programme et c'est un programme très ambitieux. Il faut préciser que votre association est strictement apolitique et aconfessionnelle.
Oui, alors là, c'est toujours le même problème. Bon, tout le monde dit on est apolitique, n'importe quelle religion. Il est simple, bon, je suis un petit peu dictateur dans cette association. Hein. J'ai créé ça avec Fabrice Poulain, qui est un ami de longue date. Et nous avons un jour décidé, en revenant de Berlin par le train, on a décidé de créer cette association parce qu'effectivement, quand un jeune Français ou un jeune Allemand débarque à Berlin, à Bonn ou à Paris ou à Marseille, évidemment, s'il n'a pas une somme importante en poche ou s'il n'a pas une adresse, il est paumé. Donc c'est un petit peu ça. On a donc créé cette association dans ce but. Alors, ce que j'aurais à dire, c'est quoi qu'il arrive dans notre association, il y a toujours la possibilité de rencontrer les gens et qu'à partir du moment où on rencontre quelqu'un, on a envie de créer quelque chose, c'est tout. Voilà, ça va pas plus loin.
Alors, je me suis renseigné quand même un petit peu parce que je voulais pas, je vous avais écrit une lettre d'ailleurs, parce que je voulais pas recevoir une association que je connaissais pas, des gens que je connaissais pas. Je dois dire que vous avez l'allure de quelqu'un actif qui n'a pas pour objet de vous assurer une vie de nabab, parce que le montant de la cotisation à l'association pour le chef de famille, c'est 50 francs. Pour le conjoint, c'est 30 francs et c'est 10 francs pour le premier enfant. À partir du cinquième enfant, c'est 5 francs. Donc, je ne crois pas qu'on puisse imaginer que vous ayez monté cette opération pour vivre confortablement. Alors, oui. Comme l'aurait fait un ministre socialiste, par exemple.
Bah, j'ai été reçu d'ailleurs par une personne qui est ministre. Je ne donne pas son nom. Mais enfin, bon, c'est une haute personnalité, et il m'a reçu d'ailleurs un peu bizarrement, parce qu'il était...
Oui, il a
un très beau bureau, il m'a offert un verre du jus d'orange, alors que lui a pris un whisky, et il m'a expliqué, par exprès grec, que l'État français, je parle pas de l'État socialiste, mais je parle de l'État français, n'aidait aucune association.
Tiens. C'est nouveau, ça vient de sortir.
Alors, j'étais un petit peu étonné, parce que je lui dis, écoutez, moi j'avais entendu dire que le ministère de la Culture, entre autres, enfin je dis vraiment au hasard, hein,
oui,
vraiment
oui.
Au hasard, hein, ou d'autres ministères avaient, ou les affaires sociales, donnaient...
C'est avec qui vous aviez pris langue, alors?
J'en sais rien, je veux dire, bon, ça ne... ça n'engage que vous, mais ceci dit, c'est un garçon qui est charmant, qui est très très cultivé, on le sent d'ailleurs, on sent qu'il a une personnalité extraordinaire.
C'est la moindre des choses, heureusement qu'il est cultivé.
Le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à prononcer l'ARF, l'Association pour le rapprochement des familles de la communauté européenne, il s'est un petit peu perdu, alors je l'ai quand même aidé parce que...
Ah non, mais vous êtes pas gentil, parce qu'il faut quand même que je vous dise, l'ARF, c'est l'Association pour le rapprochement des familles de la communauté européenne, c'est ARFCE, alors même un type qui est très très fort, qui a une langue particulièrement agile, ARF, c'est pas facile. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile à prononcer. Vous pouvez pas le reprocher de pas avoir su prononcer ARF.
Il faut avoir de la culture. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de problème de prononciation.
Non, là, c'est...
Voilà.
Donc, pas d'aide de l'État.
Alors, aucune aide de l'État. Et j'ai été reçu quelques temps après par un monsieur qui est maintenant bien connu, qui s'appelle monsieur Sarkozy, je ne sais pas si vous connaissez,
oui,
le
Nicolas
maire de
Sarkozy,
Lille.
Maire de Neuilly, absolument.
Qui m'a reçu rue de Lille très gentiment, en chemise,
c'est
sympa.
Le videur numéro un de Neuilly.
Non, mais il est gentil.
Attends, ça c'est, mon cher Nicolas, c'est hors débat. Ouais. C'est hors débat. Là, il a été gentil, donc ce soir, on va pas l'attaquer.
Non, mais il a été. C'est un garçon qui est très, très gentil, parce que effectivement, bon, il y a peut-être que lui qui a accepté de me recevoir. Il m'a reçu. J'avais pris un rendez-vous avec sa secrétaire, qui, je pensais, allait durer quand même, je sais pas, bon, 10 minutes, un quart d'heure. Il m'a reçu 25 secondes. Je crois qu'on avait chronométré avec. Enfin, bon, c'était pas ma secrétaire,
mais enfin. Un type assez rapide.
Très rapide. Il a eu.
Mais il vous a aidé.
Il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, écoutez, l'Europe, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à foutre. De toute manière, j'ai une réunion. Voyez mon collègue.
C'est intéressant.
Il est parti. Je suis resté dans le bureau. Alors, je m'en excuse auprès.
Qui était son collègue?
Je ne sais pas. Alors, je m'en excuse auprès des gens que je connais qui sont au RER, qui sont gentils, mais j'ai pas compris la démarche parce que Monsieur Sarkozy, qui préparait une élection européenne, m'a dit à moi textuellement, l'Europe, je n'ai rien à foutre.
Écoutez, je vais vous dire une chose, vous devriez vous estimer heureux, parce que pour une fois, ce mec a dit la vérité, et c'était devant vous. C'est formidable, alors, vous avez une chance inouïe.
Je lui ai pas dit, mais enfin, j'étais ensuite à sa secrétaire, vous savez, je ne manquerai pas de le dire tout haut. Ils ont rigolé, ils ont l'air de dire, bon, on s'en fout, de toute manière.
Ce que vous dites tout haut, ce soir,
on ne vous aidera pas. Et il est vrai que j'ai fait une erreur colossale au niveau de notre statut, et je l'ai appris à. Enfin, après, disons qu'on m'a un petit peu expliqué, on m'a dit, vous savez, quand on fait des statuts d'une association, et qu'il y a marqué pour être membre de cette association, excusez-moi, il suffit d'être de la communauté européenne. C'est mon statut qui explique que pour être à notre association, il suffit d'être membre, donc, même pas d'avoir un passeport, hein, c'est pas, d'être membre de la communauté européenne, donc faire partie, d'avoir une carte d'identité d'un des 12 pays.
Ah, pour une association européenne n'est pas quand même...
Alors là, vous refusez la possibilité d'intégration.
Alors, évidemment, ça m'a coûté deux choses. D'abord, ça m'a coûté de n'avoir aucune aide. La petite aide que j'avais eue, qui était une aide de caractère privé, a évidemment très vite été coulée. Et que c'est vrai que dans l'état actuel des choses, plus personne n'a envie, ou alors je change mes statuts, et je vois pas pourquoi je changerais mes statuts, donc c'est un petit peu ça.
Non, bah écoutez, ça rend votre association encore plus sympathique. Ça s'appelle l'Association pour le rapprochement des familles de la communauté européenne. L'adresse, c'est 6 square des Néerlandais, ce qui est un bon signe pour une communauté européenne. Ça aurait pu être rue de Londres, mais c'est 6 square des Néerlandais. Je dis bonjour à nos amis les Smiths.
Ah oui, Jeanne Smith, notamment,
qui nous écoute,
qui est en vacances. Elle nous écoute peut-être pas aujourd'hui, parce qu'elle est en vacances.
Non, c'est une autre. C'est une autre Jeanne
Smith.
Oui, mais qui est néerlandaise aussi et qui est très gentille. Parce qu'un jour, j'ai dit une chose méchante sur les Néerlandais, comme je l'aurais dit d'ailleurs sur les Allemands ou sur les Anglais, c'est pas beaucoup d'importance, et elle m'en a pas voulu. Donc, 6 square des Néerlandais, 91 300, Massy. M-A-2-S-Y.
Là où il y a eu, il y a quelques jours, un immeuble, pas très loin de mon domicile d'ailleurs, et je voudrais, profitant d'être ici, féliciter la police et les pompiers qui sont arrivés.
Tout de suite,
très vite.
Vite. Mais surtout, en face de cet immeuble qui a explosé, je m'en excuse de bloquer l'antenne encore quelques secondes, il y a un pavillon et il y a un magasin qui est tenu, ce qu'on appelle un magasin cachère, et qui est tenu par des Israélites. Mmh. Et sur les 4 pavillons qui sont face et qui sont face à cet immeuble qui s'est écroulé, ce sont les seuls qui ont ouvert leur maison. Alors que les nationaux,
pour accueillir les
blessés, et la tente, leur maison a servi de première tente d'urgence, et un des enfants, parce que malheureusement je suis arrivé très vite moi aussi, peut-être un petit peu plus vite que les autres, mais ça c'est parce que j'étais tout près, un des enfants très gravement brûlé qui était là a pu quand même subir les premiers soins grâce à ces gens. Alors je voudrais aussi le dire, car c'est quelque chose d'important, alors qu'autour, beaucoup de gens ont fermé leur maison, mais eux, ils l'ont ouvert tout de suite.
Ben c'est bien de le dire, c'est bien de l'avoir fait, eux, mais c'est bien à vous de l'avoir remarqué et de le dire.
Vous parliez des policiers qui étaient arrivés très vite, et alors je voudrais pas terminer cette émission sans donner la parole à un auditeur qui me rappelle effectivement que ce ne sont pas des CRS qui avaient tabassé Jean-François Devet devant minute, c'était des moblots, des gendarmes mobiles. Je demande pardon à mes nombreux amis CRS d'avoir confondu avec mes moins nombreux amis gendarmes.
Les Piédois ont rectifié eux-mêmes.
Oui, absolument. L'Église catholique condamne l'homéopathie et la radiesthésie. Ce serait diabolique. Qu'en pensez-vous? D'abord, je crois que l'Église catholique maintenant ne croit plus au diable, donc... je vois pas pourquoi. Non, mais c'est possible que ce soit condamné. L'homéopathie et la radiesthésie. Je vais m'enseigner quand même, parce que si c'est vrai, j'arrête. Moi, je suis un obéissant sujet de notre mère Église.
On parlait un petit peu avant l'émission. Vous vouliez dire quelque chose sur Berlin qui m'avait l'air intéressant.
Alors écoutez, on va faire un petit peu. Je voudrais épater quand même. Je pense que je vais le faire. Je voudrais épater quelques personnes de nos responsables, nos diplomates et surtout nos gens qui sont chargés de faire de l'espionnage. J'ai fait une réunion en début 89 et à cette réunion, j'avais expliqué que je pensais moi que d'ici un an et demi, l'Allemagne serait réunifiée. Dans une période où effectivement il ne se passait rien. Alors, j'ai donné des détails, bon, enfin, qu'importe, et effectivement, j'ai eu un jour un coup de téléphone de quelqu'un des renseignements généraux de la sous-préfecture de Palaiseau, qui m'a dit, écoutez, voilà, nous avons appris que vous avez dit que... Alors, je lui ai dit, écoutez, je vais vous donner la date de la réunification allemande, on est début 89. Je lui ai donné une date, et effectivement, je me suis trompé, parce que j'avais dit le 10 octobre, et il y a eu lieu, je suis pas de mémoire, le 3. Alors, je pense que, bon, on peut dire des choses comme ça après. Les renseignements généraux, vous demandez M. Pinta, qui est...
Il va être content, vous le malentendu.
Là, vous venez de vous faire un ami.
Voilà, tout à fait, et puis... Alors, comme j'ai eu des menaces, je...
Pentaouste, du coup.
Mais non, attention, c'est un garçon très...
Oui, forcément, un inspecteur des renseignements généraux, vaut mieux qu'il soit bien, vous vous rendez compte. Si dans les renseignements généraux, il prenait des trucs qui sont pas bien...
Faire doucer, des trucs comme ça.
Alors là, des dents...
Non, mais il s'est présenté, il s'occupe, entre autres, de ça, mais il s'occupe des associations, et donc il est connu, parce qu'il ne s'occupe que des associations. Donc, il m'a dit, en tant que président d'association, comment vous avez fait? Alors, j'ai expliqué, je lui ai dit, c'est pas dur. Vous savez, j'étais à Berlin, on a fait passer un vaupo à l'ouest. Je dis, mais quand vous avez fait passer un vaupo? Alors je dis, ben voilà, il y a une association, hein, comme ça, qui s'appelle France RDA. Ils envoient des jeunes là-bas, n'importe qui peut être moniteur. Et quand ils reviennent, donc je lui ai expliqué le système. Je lui ai dit, vous êtes pas au courant, les renseignements généraux ne savent pas ça, le SDEC.
Les renseignements généraux français, c'est rare qu'ils travaillent à Berlin, même à l'époque.
Donc il n'était pas au courant.
Il n'était pas. Et puis effectivement, quand certaines choses se sont passées, alors là j'ai eu des coups de téléphone en disant, monsieur, vous
savez trop de choses.
Non, je sais pas trop de choses, mais disons que pourquoi, et ça c'est le pourquoi, vous savez, dans un état socialiste, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Alors je voilà. Non, mais je dis ça parce que je suis en pleine santé, j'ai 4 enfants, ils sont beaux, ils sont gentils. Bon, le Crédit Lyonnais me fait des misères, mais enfin ça c'est pas grave. Hein, mais disons je suis en pleine forme et donc tout va bien.
Merci Hervé Cossard. Je rappelle l'adresse de votre association, 6 Square des Néerlandais, c'est l'association pour le rapprochement des familles de la communauté européenne, l'ARFS, 6 Square des Néerlandais, 91 300 Massy. À bientôt, merci d'être venu.
Au revoir.
Et je me tourne maintenant vers Paul Morin, dont vous avez écouté le disque pendant l'intermission. Comment dit-on ça? Oui, l'intermission, c'est
l'entracte.
Ça, l'entracte,
il n'y a pas eu de jingle.
L'interlude.
C'est pas la loi du jingle.
L'intermède. Alors,
l'intermède, très bien.
L'intermède, voilà. L'intermède. Donc, nous avons eu un intermède musical de Paul Morin. C'était une des deux chansons que vous avez enregistrées sur ce 45 tours. Vous êtes chanteur professionnel ou c'est un hobby, comme on dit?
Disons que j'essaye d'être chanteur professionnel. Ça fait des années que j'essaye de faire quelque chose. Ça fait des années que je vais voir les maisons de disques, que je fais la tournée et tout ça. Et puis, bon, pendant des années, j'ai présenté des produits, ce qu'on appelle des maquettes, donc des produits qui n'étaient pas terminés, des choses comme ça. Et donc, j'ai présenté aux maisons de disques dans l'espoir de trouver des arrangeurs, qu'on me donne des moyens de studio, des choses comme ça. Donc, c'était des produits qui n'étaient pas terminés. Et puis, dernièrement, je me suis dit, bon, je vais aller jusqu'au bout, je vais demander aux gens avec qui je travaille de faire vraiment des produits finis. Au cas où soit refusé comme d'habitude par les maisons de disques, je pourrais le sortir moi-même. Et donc j'ai fait ces deux titres-là. Et bon, là, je n'avais plus rien à attendre au niveau des maisons de disques. D'être refusé parce que bon, c'est pas un produit complètement terminé, chose comme ça. Donc partout, à peu près en maison de disques, ils ont reconnu que c'était un produit propre, quoi. Mais ça a été néanmoins refusé partout. Complètement partout, et refusé aussi en distribution partout, ce qui est assez étonnant. Ce disque est sorti depuis un peu plus d'une quinzaine de jours. Il est sur la banlieue parisienne qu'on a fait, il est presque le numéro 1 d'une dizaine de radios. Il a été refusé sur toutes les maisons de disques.
Motif.
Alors justement, c'est très gênant. Bon, j'estime j'ai perdu 15 ans de ma vie avec ce motif. Et comment dire, moi je me sens gêné quand on me pose la question. Paul Morin, vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous êtes producteur, vous faites votre propre maison de disques, et je fais moi-même mes livraisons chez les disquaires. Et pourquoi ça? Donc les maisons de disques, elles ont l'air sympas et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vous qui allez pas, il y a quelque chose qui va pas chez vous, puisque tout le monde refuse de vous prendre. Hier, la personne qui travaille avec moi a envoyé ses disques à deux maisons de disques, bon, avec qui on a eu des réseaux à peu près posés, enfin, du négatif pas trop méchant, quoi. Et je lui ai dit, quand on envoyait ça, bon, pour essayer de trouver une distribution plus conséquente, je lui ai dit, bon, c'est la dernière fois qu'on envoie quelque chose aux maisons de disques, parce qu'on a perdu énormément d'argent. Vous savez, faire la tournée, il faut passer des heures de, si vous montrez les notes de téléphone, c'est quelque chose d'épouvantable. Vous avez de quoi monter des sociétés à faire la prospection pour faire des tournées, choses comme ça. Donc, vous avez de quoi enregistrer des disques aussi, hein, largement, parce que j'ai des notes de téléphone de 3000 francs pour prendre des rendez-vous, sans parler des maquettes qu'il faut envoyer, ceci, cela. Donc, ça coûte relativement cher de faire une tournée conséquente des maisons de disques. Hein, c'est pas la peine de donner sa cassette à 2-3 bonhommes. Non, il faut vraiment tout faire, tout le monde, et donc c'est un boulot de professionnel. Bon. Et donc j'ai dit ça sera vraiment la dernière fois. On essaye de trouver une collaboration dans la distribution, mais je pense que ça ne se fera pas. Et je me disais, mais comment expliquer ça aux gens, comment expliquer au public pourquoi j'en suis réduit à ça, à faire ma propre maison de disques. Puis là, tout à l'heure, bon, là, je vais vous dire quand même quelque chose, je vous en veux, parce que je suis là depuis 6 heures, 5h30, 6h, vous m'avez fait paroter là, méchamment.
C'est la règle de l'émission, ça vous a permis d'écouter.
Oui, voilà. Bon, mais enfin, le point positif, bon, ça m'a... J'ai un journal que les gens de chez vous doivent connaître, bon, présent. Et il y a un article qui m'a... Alors là, je me suis dit, il va falloir que j'en parle dans l'émission. Voilà exactement ce qu'il me faut, le pourquoi. Bon, c'est une défaite juridique de marchand de disques aux États-Unis. Bon, c'est un type qui vendait un titre de rap qui s'appelle « Aussi vicieux que possible ». Bon, il y a une plainte d'une association, etc.
Avec les paroles en
voilà. Oui, oui. Aussi vicieux que possible. Bon, une provocation à la dépravation sexuelle, à l'abaissement de la personne humaine qui atteint outre-Atlantique des proportions telles qu'après des décennies de laxisme, une vive réaction populaire est en marche. Il faut savoir, c'est la même chose à Paris. C'est la même chose en France. Hein. Donc, les types que vous allez voir dans les maisons de disques, ce sont des types qui fabriquent ça. Moi, une fois, chez une filiale de pâté ou quelque chose comme ça, le gars, je lui ai présenté mon produit, et puis il m'a dit, écoutez, vous n'êtes pas original, et vous n'êtes pas dans le ton. Il m'a passé,
vous êtes fou.
Il m'a passé une maquette d'un truc, d'un produit sur lequel il était en train de travailler. Le refrain, ça faisait « Si j'avais des ailes à mon cul ».
C'est une balade.
Oui, aussi con que ça. Et ce que vous voyez sur M6 actuellement, C'est dans ce genre-là. Hein. Il s'agit bon de faire des trucs, des provocations, des machins comme ça. Et puis alors aussi, ce que les producteurs aiment beaucoup, c'est faire des groupes de 15-20 personnes où tout le monde est interchangeable. Comme ça, bon, dès qu'il y en a un qui hop, on le vire. Témoin, j'ai vu ça hier à la télé. Bon, le groupe numéro un actuel, c'est les Forbans. Ils ont viré le chanteur. Ils en ont mis un autre à la place.
Personne s'en est aperçu.
Oui, personne. Oui, on les change et tout celui-là. Bon, pourtant, ils étaient numéro un au hit parade. Et tout top 50, vente record de disques. Hein. On dit que généralement, quand ça marche, on ne change pas. Et ben là, ils changent. Voilà.
Et vous devriez faire Beau le lavabo. La dérision totale, non, c'est la seule chose que le système tolère. Comme forme peut-être le système tolère. Contestation.
Voilà. Donc, alors, là, par rapport à cet article, ils disent c'est la première condamnation de ce genre aux USA et elle intervient en pleine polémique entre les associations protégeant les familles et certains milieux prétendument artistiques qui dénoncent la censure et le retour à l'ordre moral, le tout étant teinté bien sûr d'accusations d'antisémitisme larvé.
Ah bah bien sûr, ça va sans dire.
À quoi ça sert?
Je voulais juste dire devant la nullité, un peu plus loin à la fin de l'article, devant la nullité et l'horreur de certaines œuvres musicales et pas seulement musicales, on peut espérer que le jugement de Floride fera jurisprudence. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, là, c'est pas une victoire juridique, mais la sortie de ce disque est en quelque sorte, bon, tout à fait en accord avec ça. C'est une victoire aussi. Pour moi, j'ai vaincu un tabou. Le tabou de ces maisons de disques, bon, faut être chez Barclay, faut être chez CBS, faut être chez Pathé ou ceci, cela. Je suis désolé, ça fait 10 ans que je l'ai fait, 10-15 ans. Ils sont pourris. Il faut vraiment être pourri si on est accusé de manque d'originalité ou de choses comme ça.
Oui, ce qui est prodigieux d'ailleurs, c'est qu'ils accusent le manque d'originalité des gens qui font pas ce que font tous les autres.
Ouais. Voilà, c'est tout à fait ça, tout à fait. Bon, je voyais, et on arrive à intoxiquer complètement les gens. Bon, je voyais un reportage il y a quelque temps sur la télévision, je crois que c'était M6 aussi, sur Niagara, le groupe Niagara. Alors on interviewait les gens dans la rue, comment trouvez-vous le groupe Niagara? Et les gens, la réponse qui revenait le plus souvent, c'est ils sont originaux. Bon, vous avez vu le dernier album qu'a sorti Niagara, religion, etc. Bon, le crucifix en sautoir, parce que bon, c'est très bien quand on déteste Jésus d'afficher un crucifix et tout. Ce n'est plus porté que par les gens qui détestent le christianisme.
En showbiz, oui, ils les portent généralement à l'envers, comme Madonna.
Voilà, des choses comme ça. Donc, ce sont des provocations
sataniques.
Voilà. Alors, c'est l'originalité conforme. Hein. Il faut être conformément original au moule de ceci, de cela. Bon, alors, en plus de ça, l'argument, une fois que m'a sorti un type de WEA, c'est « mais ça se vend ». Ça se vend. Je dis « bien sûr ». On peut pas répondre à ça. Ça se vend avec la puissance médiatique que vous avez. Vous matraquez ça. C'est sûr que ça se vend. Les gens. Bon, la lambada. On a vu que ça se vendait. C'est TF1 qui l'a fait lui-même.
C'est une objection, la lambada. C'est une ordure totale.
Bon, moi, le morceau que vous avez passé tout à l'heure, il plaît à beaucoup de monde. C'est la face B du disque. Bon, c'est peut-être je la préfère à l'autre chanson. Beaucoup de gens aussi la préfèrent à la face A. Bon, la face A, elle a aussi un côté. Ce qui a fait souvent des tubes dans la chanson française et bon, une mélodie claire, nette et tout.
On va l'écouter là dans 5 minutes, alors 2 minutes.
Voilà.
Mais je voudrais vous poser une question quand même. Visiblement, j'ai pas l'impression que vous fassiez partie vraiment de ce qu'on appelle la famille nationaliste. Vous n'êtes pas engagé politiquement. J'ai l'impression, je peux me tromper. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à résister au système? Parce que vous auriez pu dire, vous avez une belle voix, vous êtes un bon garçon, vous avez un bon look,
vous résistez? Pourquoi je résiste au système? C'est qu'il arrive à un certain niveau où le système est complètement pourri, c'est que le système ne me supporte plus, le système ne me supporte pas. Moi,
il ne vous supporte pas parce que vous auriez pu jouer le jeu.
Vous auriez pu vous mouler dans le moule et mettre des ailes, comme il vous le disait.
Des ailes à mon cul, des choses comme ça. Bon, ça, j'y arrive pas, ça m'intéressait pas. Puis je trouvais pas ça vraiment intéressant. C'est pas les références que j'avais. Disons que bon, j'avais de l'admiration pour certains musiciens ou des choses comme ça. Au niveau musical, par exemple, bon, je voulais faire des choses comparables à ce qu'ont fait ces gens-là. Bon, avec des paroles différentes. Mais, pas tomber dans le n'importe quoiisme d'aujourd'hui. Bon, les chansons qui sortent actuellement, il est sûr que dans 5 ans, 3 ans, on n'y passera plus.
On n'est pas déjà plus.
Oui. Un groupe peut être monté par les gens du sentier uniquement parce qu'ils ont besoin d'écouler un certain stock de fringues. C'est comme ça que s'est fait Niagara, je crois, au départ. Oui. Ils avaient des stocks de fringues à lancer, ou alors il recrute Steve Barney alias Ben Guigui ou Bruel alias également Ben Guigui d'ailleurs pour vendre des fringues. C'était ça le but au départ.
Ce qui est intéressant quand même dans votre témoignage, c'est qu'il montre une chose, il confirme une chose qu'on sait déjà par ailleurs, parce que il suffit de prendre un taxi, par exemple, il m'est arrivé 2-3 fois de tomber sur des chauffeurs de taxi qui étaient des chanteurs, qui faisaient le taxi pour vivre. Il y a un formidable vivier de chanteurs traditionnels français qui sont absolument interdits de séjour dans le système.
J'avais un de mes collègues qui était très très doué, Claude Vaselli, je pourrais amener une fois une cassette de lui, il est extrêmement doué.
On leur interdit de chanter, on leur interdit de faire leur boulot, et on occupe.
Oui, on les interdit pas. Il n'y a même pas de censure. Revenez. Et en plus de ça, les gars des maisons 10 sont suffisamment vicieux pour vous dire de revenir. Une fois, je trouvais dans une maison de disques, c'était chez BMG, la dernière fois que j'y suis allé, et puis j'ai dit au gars, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je viens vous voir? On n'a rien, c'est bien évident que vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Pourquoi je viens vous voir? Je dis comme ça.
C'était un bon contact déjà.
Oui. Non, mais le gars, bon, je finis par les sentir, on se respire. Vous savez, quand ils viennent me parler, des fois on cause entre derrière. Bon, je suis bien sûr obligé de fermer ma grande gueule parce que j'ai une grande gueule. Mais on finit toujours par se trahir ou des choses comme ça. Et le gars m'a dit mais si, il faut venir nous voir.
Ouais. Ouais, ça leur plaît de se payer la fiole d'un gars. Oui. Ça doit les défouler.
Mais je crois aussi
c'est une femme qui vient les voir aussi. C'est port.
Les femmes aussi auditionnent pas mal. Ça change pas grand chose au problème. Mais en fait, je crois que les...
Sauf qu'on leur fait peut-être un disque.
Non, même pas. Les auditions dans les maisons 10 sont des trompe-l'œil parce que tous les artistes qui sont engagés par les maisons 10 ne sont pratiquement pas par audition, ni par les auditions de cassettes ou des machins comme ça. C'est par copinage et des machins comme ça. Par cooptation, tout à fait.
À propos de cooptation, puisqu'on parlait tout à l'heure donc d'une forme de complot, et ce que dit Debord dans commentaire sur la société du spectacle, et ça tombe fort à propos, la mafia a pris une importance considérable ensuite après avoir fait la drogue, donc toujours la volonté d'altérer l'esprit humain qui est caractéristique du diable au XXe siècle, dans l'immobilier, les banques, la grande politique et dans les industries du spectacle. Un peu plus loin, on peut donc facilement faire pression sur les gens du showbiz en les achetant ou en les intimidant, puisque l'on dispose évidemment de bien assez de capitaux ou d'hommes de main qui ne peuvent être reconnus ni punis. En corrompant les disques jockeys, on décide donc de ce qui devra être le succès parmi des marchandises si également misérables.
J'ai envie de dire quelque chose là-dessus, parce que bon, je me suis penché sur ce problème-là. Pour moi, c'est vrai, surtout dans les années 50, 60 et 70. Mais je pense qu'à partir des années 80, et pour les années 80, le trafic de la drogue et le trafic des armes est devenu tellement important que la mafia n'a plus le temps de s'occuper du show business. Et ce qui est pire encore, c'est que le show business continue sur sa lancée de lui-même, de d'autodécadence, sans même avoir cette mafia derrière qui n'a plus le temps de s'occuper.
C'est exactement la stratégie d'une multinationale quand la filiale est suffisamment forte pour se développer elle-même.
Moi, je suis persuadé que Marilyn Monroe était une agent de la mafia américaine. C'était un agent de la mafia. Donc à l'époque, la mafia avait ses prises et tout, des vedettes, des choses comme ça. Et je dis, bon, c'était déjà une source de décadence. Et je dis qu'aujourd'hui, on est encore plus décadent parce que la mafia est tellement occupée que Madonna n'a même plus le temps de s'occuper de Madonna. Vous voyez, c'est trop dérisoire.
Ouais. Oui, mais la mafia, ça veut rien dire. C'est les mafias, maintenant.
Je dois vous dire une chose. J'étais un petit peu vexé tout à l'heure que vous ayez reproché de vous avoir fait trop attendre. Mais je dois dire une chose. Si j'avais su que votre discours serait ça, je vous aurais fait venir plus tôt. Mais vous reviendrez, d'ailleurs. Parce que le problème, c'est que, bon, on reçoit de temps en temps ici des gens qui viennent présenter leur disque. C'est des gens qu'on connaît. C'est Anne Bernet, c'est Gavino, le docteur Merlin, bon, etc. Quand on les connaît, on les fait parler, on sait dans quelle direction ils vont aller, on sait ce qu'on peut leur faire dire, ce qu'on peut leur tirer des tripes.
Quand on reçoit quelqu'un qu'on connaît pas, on a toujours un peu peur, parce qu'on a l'image du chanteur, que ce soit un discours convenu, prédigéré, mon disque, oui, c'est beaucoup de travail, etc.
Non, moi, alors, j'ai quand même une parenté. On vous avait pas dit que normalement, je dois collaborer avec Radio Renaissance.
Ah,
et
oui.
Faire une émission, essayer de la faire régulièrement, quoi.
Alors, je suis que vous fussiez venu plus tôt.
Ah.
Mais vous reviendrez nous voir, et alors, on fera, on aura une conversation. Sur cette question fort intéressante.
Ah ouais, y a pas
Qu'est-ce que vous voulez, mon petit Nicolas Bonal? Il veut dire quelque chose. Fussiez, c'est ce que j'ai dit? J'ai dit vous fussiez venu. Oui, mais il est 9h moins le quart, j'ai des excuses.
Et on peut pas faire parler Bruno Maigret.
Très fatigué.
Là.
On va faire parler Bruno Maigret, mais juste avant, on va quand même écouter la chanson de Paul Morin. Et après, on donnera l'adresse à laquelle on peut commander son disque, parce que évidemment,
on le trouve en distribution, pas mal dans la banlieue parisienne. Bon. Dans la banlieue parisienne. Mais on peut le commander aussi si on le trouve pas. Mais on a fait tous les Euromarchés, les Monoprix et tout ça. Dans le 77, dans le 91, il est très très bien distribué. Et le 93, Bobigny et tout ça. Il y a plusieurs grandes surfaces qui l'ont. On va faire le 92, c'est pas encore fait, le 78, c'est pas encore fait, on peut pas tout faire, mais on va les faire.
Écoutons-le.
Cette fille, je l'aimais, je croyais en elle, je ne l'imaginais jamais cruelle. Tes ailes, j'aurais donné ma vie pour un sourire d'elle. Pourquoi est-elle partie? Elle était si belle. Elle était tout pour moi, le vent, le soleil, l'eau de source qu'on boit, la pluie, l'arc-en-ciel. Quoi de plus mortel? Il me reste le froid, l'adieu éternel. Qu'est-ce que sera ma vie maintenant sans elle? Et quelles seront mes nuits? Elle était si belle.
Eh bien voilà donc la chanson qui s'appelle celle-ci, elle était si belle, hein, c'est donc la face A,
la face A
du disque. Alors les références, c'est disque IMG, 2 rue de l'Érable, 91 800, Boussy-Saint-Antoine. On peut donner aussi le téléphone, c'est le 69 00 36 40, 64, précédé du 1, si vous êtes dans un endroit où il faut faire le 1 pour appeler. Et je vous rappelle le nom de ce chanteur qu'on retrouvera sans doute Paul Morin.
Donc s'ils veulent le commander par correspondance,
voilà. Mais chèque, on peut le trouver dans les
grandes surfaces. Bon, pour un peu plus loin, les gens qui le veulent.
Le chèque est de combien?
Un chèque de 20 francs.
Un chèque de 20 francs.
Pour compris.
Alors, après Paul Morin, d'autres paroles, mais sur un air que l'on aime bien aussi, et dans un autre registre, Bruno Maigret.
Les émeutes de Vaux-en-Velin démontrent que l'intégration que prône la classe politique est impossible. On nous explique en effet à longueur de temps que les immigrés vont s'intégrer et qu'il suffit pour cela de mener une politique d'intégration. Or, quelle est cette politique ? C'est celle qui a été menée dans la banlieue lyonnaise comme à Vaux-en-Velin. Des crédits spécifiques ont été affectés aux immigrés pour leur logement, leur éducation, leur emploi. Des travaux considérables ont été réalisés. Des actions de grande envergure ont été conduites. Réhabilitation des logements, création de crèches, de centres d'animation sociale, création de lignes d'autobus, renforcement des moyens locaux de l'éducation nationale, action sociale, action de prévention contre la drogue et la délinquance. Des milliards ont été engloutis. Résultat, des émeutes qui détruisent tout. Comment s'en étonner ? L'intégration est impossible. Seule l'assimilation a un sens. Elle consiste à fondre les immigrés à titre individuel dans le peuple français. Mais cela n'est possible que pour un nombre très limité de personnes, et d'autant plus limité que la civilisation à laquelle ils appartiennent est éloignée de la nôtre. Or aujourd'hui, ce seuil est largement dépassé, mille fois dépassé. Et si rien ne change, la situation ne peut évoluer que vers une société de type Mad Max, pour reprendre la juste observation de Laurent Jaffrin, du Nouvel Observateur à l'émission La Marche du Siècle sur FR3. Et c'est ce syndrome Mad Max que l'on observe aujourd'hui à Vaux-en-Velin. Il doit faire prendre conscience aux Français que l'intégration n'est qu'une illusion, que l'immigration est une menace et que la seule solution qui vaille est celle préconisée par le Front National, l'inversion des flux migratoires.
Dans la rubrique « Nos lecteurs savent tout », La France bouge figure sur une cassette « L'Action française, voix et chant » éditée par la SERP.
Oui, mais peut-être, pas, peut-être la... pas édulcoré, mais je crois qu'il est quasiment épuisé.
Mais hein, on peut trouver le texte, en tous les cas, à Aspect de la France, 10 rue Croix des Petits Champs.
Ah ben c'est très bien.
Bien. Sur France, oui, ça non, c'est notre ami Zamit qui nous précise un aspect de l'enquête policière sur... sur Vaux-en-Velin, mais ça serait vraiment trop compliqué à expliquer. Qu'est-ce qu'une cité dortoir, nous demande une auditrice. Mais je crois que le nom en lui-même est parfaitement explicite. Cela dit, c'est un abus de langage d'appeler le mât du taureau une cité dortoir, parce que c'était au contraire fait, comme vient de l'expliquer Maigret, on avait dépensé un fric absolument faramineux pour créer une
un mur d'escalade
de 18 étages,
une bibliothèque.
Oui, bien sûr. Les 22 personnes tuées à Jérusalem sont présentées, pardon, comme des agents de l'Irak, des terroristes qui attendent aux libertés israéliennes.
Bien sûr.
Mais c'est vrai d'ailleurs, et ce sont des gens qui ont porté atteinte à l'embargo, puisque en fait ils sont partis avec des balles.
Qui
auraient pu servir ailleurs, absolument. Mmh. Et il faut quand même savoir que c'est pas bien du tout de faire ça. C'est un peu comme en 1930 ou en 1940 aux États-Unis, dans les États du Sud, quand on trouvait un nègre avec un couteau planté dans le dos, on l'inculpait immédiatement de port d'armes prohibées, et voire de vol, bien sûr. Alors là, ces 22 gars, ils ont volé les munitions de l'armée israélienne, et ça, c'est absolument inacceptable. C'est un des traits de l'antisémitisme les plus abjects qui soit, de voler les armes de Tsahal, qui en a besoin, de voler les balles de Tsahal, qui en a besoin pour se défendre. Les beurs gardent leur nationalité algérienne, en plus de la nationalité française, ils ont donc la double nationalité et en joue, nous précise une auditrice. Parlez-nous de l'abbé Pierre. Ben non, là, si vous voulez, ce soir, voilà, exceptionnellement, on ne va pas parler de l'abbé Pierre.
On a déjà été assez discourtois.
Parlez-nous de la spéculation sur les barils de pétrole. Qu'en dire ?
Ben, c'est déjà à $40 et que, par exemple, Rockefeller, lui, ne doit pas s'en plaindre trop.
Moi non plus.
ça m'est complètement indifférent.
Parce que t'as beaucoup d'argent pour ton essence.
Une auditrice, un oncle prêtre qui se soigne à l'homéopathie, c'est la réponse à la question que je posais, donc si un prêtre utilise ça.
Non, mais l'homéopathie.
L'homéopathie,
la radiesthésie, je m'engage pas, je sais pas, mais l'homéopathie.
Une minute, il reste. Votre invité peut-il dire pourquoi non? Ça, c'était une question d'avant. Qu'est-ce que le rap et le WEA? Eh ben, je n'en sais rien.
Le rap, si on peut.
Le rap, c'est une chanson où on parle en sur tac-tac-tac.
Voilà, oui, il y a un rap. C'est une musique qui est assez, enfin, qui est assez casse-pied. Moi, elle m'énerve beaucoup. Il peut y avoir des raps bien, plus ou moins bien réussis quand il y a une construction et puis on aboutit sur quelque chose de musical.
C'est bon, mais
c'est pas de c'est pour ce genre de paroles que le type a été condamné aux USA.
On a terminé.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, daté du 10 octobre 1990, rediffusé ce dimanche 11 avril 2010 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros. Ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent à notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.